Bien, écoutez, je vous propose de commencer cette conférence sans attendre. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir pour cette conférence consacrée au printemps arabe. Heureux de vous recevoir au nom de la librairie Jean Calvin. Je tiens à remercier aussi, au nom de la librairie Jean Calvin, la mairie de Cholet, qui nous reçoit dans ses locaux et qui a bien voulu accepter de mettre à notre disposition cette salle. Et je précise ici, d'emblée, que cette conférence est organisée donc en partenariat avec la ville de Cholet et la librairie Jean Calvin de Cholet. Alors, nous allons organiser plusieurs conférences ici avec la ville de Cholet. Nous en avons déjà organisé une pour l'inauguration de la librairie à Cholet. C'était en septembre et nous avions reçu ici le professeur Bernard Cotteret et le professeur Didier Poisson qui étaient venus nous parler du protestantisme de l'Ouest et de l'exil huguenot. Aujourd'hui, nous passons à tout autre registre. Puisque nous abordons une question d'actualité majeure, la question des printemps arabes, avec cette question posée, printemps arabe, l'impossible stabilité, point d'interrogation. Vous savez que les printemps arabes ont été un véritable bousculement de la géopolitique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, que ce bousculement ne cesse pas d'agiter encore ces pays, je pense notamment à la Syrie, mais aussi à la Libye, et que, évidemment, ces implications qui se font sentir de manière très forte en Syrie ou en Libye ont des répercussions non seulement sur Israël, mais sur l'ensemble de la géopolitique de ces pays d'Afrique du Nord, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, ou que ce soit aussi le Moyen-Orient, et je pense aussi, évidemment, à la Jordanie ou à l'Irak. Donc, évidemment, ce sont des questions nombreuses qui se posent à nous ce soir, et que Frédéric Ancel se propose de décrypter pour nous. Je remercie vivement Frédéric d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de venir ici à Cholet. Alors Frédéric Ancel est un géopolitologue français. Il intervient régulièrement sur les ondes. Il participe et anime aussi des émissions de télé. Et il est enseignant à l'école Sciences Politiques de Paris, l'Institut de Sciences Politiques de Paris. Voilà. Donc il vient ce soir nous entretenir de cette question des printemps arabes. Je vous propose qu'il nous expose sa vision de cette impossible stabilité ou de cette possible stabilité pendant à peu près 45-50 minutes. Et puis après quoi, ce sera l'occasion pour nous de débattre, de rebondir, de faire nos remarques, de poser des questions, d'approfondir certains points abordés sur cette question des printemps arabes ou éventuellement sur les perspectives d'équilibre de ces deux régions qui troublent évidemment la géopolitique internationale depuis la création de l'État d'Israël en 1948, même si ici le sujet n'est pas directement Israël et la relation avec ses voisins, vous l'aurez compris. Donc je laisse d'emblée parole à Frédéric.
Merci beaucoup Franck, merci à vous tous, puisque lorsqu'on met 50 minutes, j'en prends 55, donc déjà ça va être long. Ensuite, c'est compliqué, mais enfin rien n'est totalement compliqué à celui qui veut bien tendre un peu l'oreille, et notamment concernant cette région. À force d'en faire une région compliquée, on s'en désintéresse, et puis on se dit que décidément c'est un sacré bazar pour rester poli, et puis finalement on va passer à autre chose. C'est pas plus compliqué qu'une autre région ou qu'une autre thématique. Merci beaucoup donc pour ton accueil. Tout à l'heure, j'ai visité pour la première fois de ma vie la librairie Jean Calvin. Je ne suis pas resté très longtemps, mais elle est très bien achalandée. Voilà, on pouvait passer. Oui, je le fais bien.
C'est bien. Continue. Tu peux insister, vas-y.
On invitera. Et puis, je suis très heureux de vous annoncer que pour ceux qui seront à Paris le 29 octobre, j'organise à l'Hôtel de Ville les 5e assises nationales de la lutte contre le négationnisme. Car le négationnisme est une peste. C'est une peste en termes de...
Tu peux expliquer en deux mots
la négation très concrète des génocides. Et bien sûr, la négation des génocides et tout ce qui va avec, le complotisme qui est son cousin, voire même son frère en pestilence. Et ça sera consacré au 100e anniversaire, j'allais dire évidemment, du génocide des Arméniens. Voilà, que les Turcs seraient bien inspirés de finir par reconnaître. Et pas seulement les Turcs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que fin août sort un bouquin qui vaut ce qu'il vaut, mais comme en général je suis d'accord avec ce que j'écris, je le trouve assez bon. Ça s'appelle Petite leçon de diplomatie, ça sortira chez Autrement. Voilà, je vous remercie. Voilà.
On va parler des autres.
À trouver dans toutes les bonnes librairies, notamment celle de Cholet. Bon. J'entame mon propos. Je vais intervenir, si vous voulez bien, en deux parties. Deux parties, et puis quand même, je voudrais conclure après, donc dans ma cinquantième, à partir de ma cinquantième minute, sur la France. Les répercussions du printemps arabe, bah, elles existent aussi chez nous quand même, hein, et mine de rien, on est tous plus ou moins, je crois, enfin, français, ou en tout cas, on vit en France, et par conséquent, ça ne nous laisse pas totalement indifférents. Bon. La première partie, c'est un petit peu sur les causes et le déroulement du printemps arabe. Sans remonter au 7e siècle de l'ère chrétienne et par conséquent à l'Égypte. Le printemps arabe, il débute donc en Tunisie fin 2010, puis s'étend à l'Égypte, à la Tunisie, au Yémen, dans une moindre mesure à l'Irak, qui touche pas l'Algérie pour d'autres raisons. Il a, ce printemps arabe, deux moteurs et deux causes. Il y a des causes politiques, des causes économiques et sociales. Cause politique. Vous vivez depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans. Autrement dit, vous, vos parents et parfois vos grands-parents. Parce que taux de fécondité de 6, la population double tous les 18 ans. C'est pas compliqué. Hein, donc, vous voulez, bon. Donc, ça va très vite. Donc, la population est extrêmement jeune et très importante. Et donc, vous voyez, vous avez vu vos parents et parfois vos grands-parents vivre sous le même bonhomme, le même dictateur. Et c'est pas un bonhomme très sympathique parce que il utilise plus souvent qu'à son tour les terribles muhabarat, donc les services de renseignement, services secrets, pour aller réprimer celui qui le mérite ou celui qui le mérite pas. Bon, je mets ça évidemment entre guillemets et je vais vite à Essien, mais vous comprenez à quel point vivre pendant des décennies sous une dictature, c'est extrêmement pénible. Alors il y a bien un moment, sans faire le malin a posteriori, où on se dit, mais de toute façon ça devait arriver. Il y a un moment où un système dictatorial craque. Ça ne veut pas dire que ce régime va être remplacé, malheureusement, par un régime démocratique. On voit bien que ce n'est pas le cas, par exemple, en Égypte aujourd'hui. Bon, mais en tout cas, ce système-là, le système Nasser Moubarak, il a fini par craquer. Bien. Donc, il y a des motivations politiques, notamment liées à la répression. Deuxième moteur, c'est le moteur, alors un moteur qu'on oublie trop souvent en France, parce qu'en France, nous sommes 65 millions de politologues, on adore les sciences politiques, enfin, ou en tout cas, on adore s'intéresser à la politique, bon, et on se demande si cette révolution est le fruit de la droite ou de la gauche, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, est-ce qu'il y a des sociodémocrates, des chrétiens, musulmans, bon, écoutez, je vais vous dire franchement, hein, vous vivez avec 2 $ par jour. Non mais, depuis des décennies, vous savez parfaitement que votre État est riche. L'Algérie, c'est un État riche. Je ne parle pas de la population, je parle de l'État. Est riche 2% des exportations de brut mondial, plus 2% du gaz naturel vendu dans le monde. Pareil pour la Libye. Alors, Libye, en plus, vous êtes 5 millions et demi. Bon, là, vous vous dites, au bout d'un moment, Kadhafi, il se fout de moi. Il se fout de moi. Parce que lui, sa famille, son clan, et par-delà le clan en matrimonial, sa tribu, elle vit bien, elle vit très bien, elle vit formidablement bien, et moi j'ai beau travailler, j'ai beau faire des études, printemps arabe, vous l'avez bien vu, comme moi, c'est des gens qui pour beaucoup étaient des jeunes diplômés, mais diplômés ou pas, peu importe, qui font des études, si on n'en fait pas, on a travaillé pendant des années ou des dizaines d'années à monter des petits commerces, et du jour en un on peut tout perdre, et de toute façon, même si on travaille assez en roturier en quelque sorte, dur et depuis longtemps, eh bien on n'arrivera jamais au niveau de, non pas de richesse, mais de décence, que nous donne à voir ce qui se passe ailleurs via Internet. Parce qu'on peut être pauvre, mais sachant que tout le monde a Internet, on est bien d'accord maintenant. Donc, si vous voulez, vous êtes jeune ou moins jeune dans ce monde arabe, vous constatez, vous vivez une stagnation, c'est-à-dire un recul, parce que d'autres avancent, hein. Une stagnation sur le plan social et économique catastrophique par rapport à l'Asie centrale, oui, d'ailleurs aussi, l'Asie orientale, l'Europe, elle stagne, mais enfin, elle stagne dans une certaine opulence, quand même, bon. L'Amérique, Oresco Reference, des parties de l'Afrique noire subsaharienne commencent à progresser, et vous, non. Donc c'est vrai sur le plan politique, ça ne bouge pas. Et c'est vrai sur le plan socio-économique. Voilà quels ont été les deux moteurs. Alors j'entre pas dans le détail, mais si vous avez des questions, évidemment, je répondrai. En Syrie, c'était plus politique qu'économique et social. En Tunisie, le pauvre Bouazizi qui se fait flamber, ça, si vous voulez, c'est vraiment du social. Hein. En Égypte, c'est social, avant que ça ne soit politique. Alors, au Yémen, c'est compliqué, c'est plutôt le sud contre le nord, donc c'est davantage le politique. Mais l'un et l'autre sont bien évidemment intimement liés dans ces systèmes extrêmement sclérosés. Ça, c'est le premier point de ma première partie. Le pourquoi, enfin, les deux moteurs. Deuxième point, cette première partie, sur les causes et le déroulement. Pourquoi le printemps? Pourquoi l'avoir appelé le printemps? Pour une fois, pour ce qui me concerne en tout cas, pour une fois, j'adhérerais au terme de printemps. Pour deux raisons, qui est un terme très journalistique. D'abord parce que, moralement, le printemps, alors c'est très sympa. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais c'est devenu l'automne islamiste ou l'hiver. » C'est très très joli, c'est Vivaldi. Bon, attendez, le printemps, par rapport à ce que je vous ai dit, c'est pas mal. Il y a quelque chose. Il y a une vraie contestation. Il y a un vrai espoir. Il y a un vrai dégage. En quelques semaines seulement, il y a des vraies chutes de dictateurs, a priori considérés comme inamovibles, y compris par le Quai d'Orsay. Bien. Donc, ok, il y a quand même quelque chose, si vous voulez, il y a au moins une espérance. Alors après, elle peut être trahie, hein, toutes les révolutions dévorent leurs propres enfants, vous connaissez ça comme moi, bon, j'invente rien. Peut-être, n'empêche que même si ça a été trahi, et je reviendrai tout à l'heure sur la grandissime... je suis à Cholet, je plaisante. Révolution française, ça a mis du temps, si vous voulez, pour aboutir, pour accoucher à une république plus ou moins stable, sauf lorsque les Allemands nous envahissent. Mais je vois pas pourquoi, dans le monde arabe, au bout de 4 ans, on considérait que c'est lamentable, ils ont échoué. Il faut laisser un peu de temps au temps. Donc, de ce point de vue-là, le printemps me paraît quand même assez intéressant. Mais surtout, surtout, d'un point de vue historique, on a tous en tête, et depuis pas si longtemps, nos bouquins d'histoire, je ne sais plus en quelle classe, où on nous enseigne le 19e siècle avec ce printemps des peuples. Le printemps des peuples européens, 1848. Le printemps des peuples européens, 1848. Eh bien, lorsque vous regardez la caractéristique fondamentale de ce printemps des peuples européens, vous avez une matrice sociale, ça sera germinal un peu plus tard, c'est déjà ça, c'est le petit Gavroche, très bien, et c'est aussi une crispation politique et impériale de la part des puissances européennes, dues aux puissances européennes, et puis c'est quelque chose, c'est un mouvement qui se passe dans presque toute l'Europe, mais uniquement en Europe. Eh bien, le printemps arabe, il s'est déroulé dans quasiment tout le monde arabe, mais uniquement dans le monde arabe. Et ça, c'est très passionnant. Parce que, figurez-vous que les caractéristiques catastrophiques sociales et politiques dont je viens de parler il y a un instant, eh bien, il y a 5 ans, vous les retrouviez tout aussi bien, voire de manière plus catastrophique encore, au Sahel, Mali, Mauritanie, où les soldats français crapahutent, au Niger, c'était encore plus pauvre, pas bougé. On les retrouve à l'est du monde arabe, en Iran. Il y a eu un printemps iranien en 2009. Oui, mais pas en 2010, 11, 12, 13, 14, 15. C'est étonnant. Pourtant, en Iran, on vit mal, d'ailleurs, notamment à cause ou grâce, appelez ça comme vous voulez, enfin à cause des sanctions occidentales sur le nucléaire, on pourrait y revenir. Pas bougé. En Turquie, en Anatolie orientale, on vit très pauvrement. Pas bougé. Les indignés en Europe, ça n'a aucun rapport. Personne, aucun indigné n'a jamais voulu changer le régime politique en France. Ça n'a aucun rapport. Donc, ça n'a bougé que dans le monde arabe. Vachement intéressant, ça. Donc, ne serait-ce que pour cette deuxième raison, outre le côté moral, le printemps arabe, je pense que ça doit continuer à nous parler. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière ça. Troisième constat, alors c'est à la fois une cause et une conséquence du printemps arabe, les islamistes arrivent au pouvoir. Vous posez une urne quelque part dans le monde arabe, boum, les frères musulmans gagnent. Ça a été systématique, ça a été mécanique et systématique. Non pas que des millions et des millions d'Égyptiens tout d'un coup se disent « Ah oui, vraiment, leur programme de destruction de l'entité sioniste qui se trouve, je l'appelais l'État d'Israël, qui se trouve à la frontière, ouais, enfin, on va détruire Israël. » Ils s'en foutent d'Israël. Ils veulent manger. Ils veulent envoyer leurs enfants dans une école. Ils veulent se faire soigner à peu près décemment et correctement lorsqu'ils ont un problème. Ils veulent arrêter de payer des bakchiches à chaque fois qu'ils croisent un flic. D'accord ? Bon, foutent d'Israël. Et de ce point de vue-là, les islamistes bénéficiaient d'une virginité politique. C'est un peu comme les trotskistes à la sortie des lycées ou des usines. Pas ici. Bon, si un jour vous croisez un trotskiste en voyage, il va vous dire « Attendez, essayez-moi !» Alors vous allez dire « Non, t'es communiste, merci le goulag. Mais moi j'y étais au goulag. » Trotsky s'est fait abattre par Staline, ce qui est vrai, tout ça est vrai. Bon. Donc la virginité politique, ça vous offre un certain, a priori de toute autre considération, hein, ça vous donne une espèce d'aura. Bah oui, c'est vrai, on ne les a pas encore essayés. Bon, les Ikhwan, les frères musulmans, ils arrivent en Égypte et en Tunisie, divine surprise comme dirait l'autre, on colle une urne, Moubarak et Ben Ali sont tombés, ils ont le droit de voter et de créer des partis politiques, faut voter pour eux, pour essayer, pour voir, bon. De bonne foi, les gens essayent. Ensuite, les islamistes ont remporté les élections parce que eux parlaient de social. Vous vous souvenez, il y a un instant, le social, mon Dieu, le social. Barak en parlait pas, Ben Ali en parlait pas, Assad s'en fout. Eux en parlaient. Ils parlaient du social. Et ils disaient que la fraternité, notamment entre les musulmans, c'était la zakat. La zakat, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. C'est accorder, c'est 10% même plus, de ce qu'on touche pour les pauvres, etc. Bon. C'est sûr, Ben Ali, il le faisait pour lui et sa femme, pas pour les autres. Bon. Ça touche. ça parle. En plus, c'est des sociétés traditionnalistes musulmanes. Donc la zakat, on sait ce que c'est. Le social, on subit ça. Eux parlaient du social. Les frères musulmans, donc les islamistes, ils avaient aussi un autre chose pour eux. C'est que ils ont profité d'un désert politique, au sens philosophique du terme. Dans une dictature, vous n'avez pas le droit de faire de la politique. On est bien d'accord, par définition. Alors là, les dictateurs soi-disant laïcs et nationalistes arabes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils laissaient aux gens la possibilité de faire de la politique à la mosquée. Là, à la mosquée, on pouvait en parler. Alors évidemment, il ne s'agissait pas de brandir des... On ne faisait pas la révolution, mais c'était une espèce de soupape. Bah oui, bah, enfin, quand on fait la politique à la mosquée, c'est aussi en écoutant les prêches. Et les prêches de qui? Bah, des types un peu conservateurs, voire très conservateurs, voire carrément islamistes très, très radicaux. Bon. Et c'est là qu'on forge également ces réseaux d'alliances, parfois matrimoniales, parfois autres, idéologiques. Et par conséquent, au moment où tout ça explose, où le pouvoir nationaliste explose, c'est la mosquée qui prévaut en quelque sorte. Et qui est perçue comme le seul havre de liberté intellectuelle, spirituelle, politique à avoir survécu, à avoir tenu bon. Donc on la valorise, donc on remercie l'imam et on vote pour lui. Voilà, on vote pour le bonhomme qui se présente à la tête des frères. Bon, vous voyez, donc c'est pour ça que les frères musulmans, ça, je ne veux pas considérer que le monde arabo-musulman est traversé. Oui, il y a une lame de fond, je vais y revenir, il y a une lame de fond islamiste, et on va voir ce que c'est tout à l'heure. Mais du point de vue du printemps arabe, c'est minoritaire étaient vraiment ceux qui disaient... Chouette, là, Allah est grand, c'est maintenant ou jamais, vous allez voir, on va dégager les koufars, les renégats, et puis ensuite on ira à l'assaut de l'Occident. Il y a des fanatiques, malheureusement, on en a vu ici, il y en a plein. Alors c'est pas 1,5 milliard de musulmans et c'est pas 300 millions d'arabes. Hein. Bon, ok. Ça, c'était mon troisième point. Pourquoi les frères musulmans sont arrivés au pouvoir? Quatre, pourquoi ils y sont plus? Ils sont plus. Parce que le maréchal égyptien Al-Sissi, c'est peu d'humour quand même avec son opposition. Il les a mis en prison et il les condamne à mort. Oui, mais d'accord. Mais la population les a rejetés. Parce qu'ils ont trahi leur promesse sociale. Morsi arrive au pouvoir en juillet 2012. Pendant un an, il propose un certain nombre de réformes. Alors la réforme la plus importante à ses yeux, en tout cas, évidemment, celle qui a été poussée plus loin, c'est faire porter le hijab aux minettes dans les lycées. Mais ça se bouffe pas, ça, le hijab. Le voile, ça se mange pas. Donc les gens... Mais même les musulmans tradis, quoi, ont vu Morsi comme quelqu'un qui se moquait d'eux. Réellement. Manifestation monstre de millions de gens dans la rue, des gens qui avaient voté pour les frères musulmans, puisque c'est comme ça, eux non plus ne font pas de social. Alors là, c'est la grande déception. Et là-dessus, l'armée intervient pour conserver ses prébendes et pour que la stabilité règne. D'accord ? C'est pour ça qu'ils ont perdu le pouvoir, les frères. En Tunisie, les frères ont perdu le pouvoir dans les urnes de façon totalement démocratique. Ils avaient promis le social, ils n'ont pas fait. Ils voulaient finalement mettre des voiles aux minettes. Donc, vous voyez, c'est vachement intéressant de ce point de vue-là. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il faut cesser de, parfois, on est un certain nombre à infantiliser ces sociétés qui, du coup, seraient très binaires avec un couteau entre les dents le matin en se réveillant. Bon, je crois que c'est extrêmement compliqué. Et vraiment, ne négligez jamais, jamais, jamais le social, mon Dieu. Et on ne peut pas pousser les gens dans la désespérance. Il y a un moment où, d'une manière ou d'une autre, ça craque. Ça, c'était la troisième. Le quatrième, à la fois cause et déroulement, printemps arabe. Tout à l'heure, tu as mentionné à deux reprises Israël ou le conflit israélo-palestinien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le printemps arabe n'a eu aucun lien. Mais aucun. Enfin, vous avez tous suivi depuis 5 ans le printemps arabe sur le net, à la télé, à la radio. Pas un slogan, pas un pochoir sur les murs des différentes sociétés arabes, enfin des villes arabes ou des villages arabes où le printemps s'est effectivement développé en faveur de la cause palestinienne. Entendez-moi bien, les Arabes sont pro-palestiniens, c'est une évidence, mais totale et absolue, et c'est parfaitement légitime et compréhensible. Un. Deux, aujourd'hui, vous faites un grand référendum dans l'ensemble des sociétés musulmanes pour savoir si oui ou non font un État palestinien, vous avez trouvé 99,99999, oui, en faveur de. Mais ce qui est logique, c'est normal, et c'est très bien d'ailleurs, et ils ont raison. Mais, ce que je dis, et depuis des années je dis et je répète, qu'on nous vend le conflit israélo-palestinien comme une espèce de toxicité qui va irradier l'ensemble de la région, qui va déstabiliser la région. Ah oui, la région a été déstabilisée par le printemps arabe. Ah oui, aucun rapport. Et les Palestiniens que je fréquente, avec qui je parle, contrairement aux patentés pro-palestiniens professionnels en France, ils savent très bien que les potentats arabes et au fond les populations s'en fichent aux trois quarts, quoi. Ils s'en fichent même complètement, quoi. Chacun défend son beefsteak. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que, mais toujours dans la même veine, c'est que les manifs qu'il y a eu au Maroc, c'était, c'est pas aller très loin pour plein de raisons sur lesquelles on revient, mais c'est porter sur plus de dignité, plus de moyens financiers, des taxations, des produits de base moins importantes au Maroc, pour la population marocaine. Les manifs qu'il y a eu en Tunisie, dégage Ben Ali, dégage. Il disait pas dégagez à vous tous les dictateurs arabes, c'est toi, dégage, moi je suis tunisien, je te parle à toi tunisien. Et idem en Égypte, idem au Yémen, etc. C'est vachement intéressant, ça. Ça, c'est prodigieux. Parce que je vous disais tout à l'heure que, un peu comme le printemps des peuples européens de 1848, ça s'est propagé dans presque tout le monde arabe, mais uniquement dans le monde arabe. Oui, mais à chaque fois, au coup par coup et au cas par cas. Autrement dit, la vieille espérance nassérienne, panarabe ou panarabiste, elle est pas dans les têtes. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de porosité, hein, mais néanmoins, chaque société, et c'est un signe de maturité, me semble-t-il, chaque société est descendue dans la rue, beaucoup sont descendus dans la rue, pour la défense de leurs propres intérêts, au sens noble du terme. Hein. Voilà. Et alors, de ce point de vue-là, la cause palestinienne, il échappe. D'ailleurs, le pauvre Mahmoud Abbas, il est tout seul. Personne ne le soutient, personne ne s'intéresse à lui. Je parle chez les Arabes, personne ne s'intéresse à lui. Hein. Donc, ce n'est pas la question douloureuse, pénible, qu'il faudra bien régler, israélo-arabe, qui a créé l'instabilité dans la région, et certainement pas le printemps arabe. Dernier point, avant de passer à ma deuxième partie, les Occidentaux. Et notamment Obama. Combien de fois ai-je entendu c'est malin. On n'a pas soutenu nos camarades Ben Ali, Moubarak, quand on était allié avec eux. Enfin, pas allié avec eux, Ben Ali, bon, oui, on a des bons rapports. Moubarak, c'est plutôt américain, enfin, l'Égypte. On n'a rien fait, c'est malin, maintenant, les islamistes sont au pouvoir. Mais les Occidentaux, le pouvaient-ils faire quoi que ce soit? D'abord, si on était intervenus fortement pour soutenir, par exemple, Moubarak en fin de course, en février 2011, ou Ben Ali en janvier 2011, ça ressemblait un peu furieusement à Suez en 1956. Si vous voulez, il y a un moment, moi j'aime bien Guimolet, mais là, on est quand même passé à autre chose, quoi. Donc déjà, les parachutistes, d'abord, de toute façon, il n'y en a plus, et puis là, en ce moment, ils sont occupés à autre chose, à défendre les lieux de culte. Bon, ils sont allés crapahuter un peu plus tard au Mali, c'était déjà en Afghanistan, il ne nous reste quand même pas grand-chose. Mais ce qui nous reste, on leur a envoyé un corps expéditionnaire, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, dans un pays arabe, pour aller défendre le dictateur qui était vilipendé par la population. Mais c'était fou, quoi. Mais on pouvait pas faire ça. Bon, on n'avait pas les moyens de toute façon, et il fallait pas, mon Dieu, faire un truc pareil. Heureusement, on l'a pas fait. Bon, on pouvait pas, parce que autant les Occidentaux, les groupes des Américains, hein, tout fort soit-il, hein, peuvent encore aujourd'hui envoyer de vie à trépas dans un monde meilleur, un peu prématurément, je le reconnais. Quelques islamistes radicaux, quelques ingénieurs nucléaires iraniens, bon, les Russes aussi, hein, avec leurs amanites phalloïdes dans les soupes, là, bon, pff, les Russes savent faire avec les champignons, bon. Très bien, ça, on peut tuer des gens, mais on ne peut pas, l'Occident ne peut pas, et tant mieux, modifier en profondeur un courant sociétal, spirituel, lourd, qui concerne des dizaines de millions de personnes. Les Frères musulmans ont été créés en Égypte en 1928. Depuis, ils ont essaimé dans le monde entier. Il y a d'autres courants qui sont apparus. Les wahhabites saoudiens nous pourrissent nos banlieues, ils pourrissent le Pakistan, ils pourrissent l'Inde depuis un certain nombre de pays, depuis des années avec leur wahhabisme fanatique. Mais on leur achète leur pétrole et on leur vend nos rafales. Bon, entre parenthèses, on n'y peut rien. On n'allait pas soutenir un Moubarak qui, d'abord, de toute façon, était dégagé par l'armée, parce que l'armée voulait garder le pouvoir, et donc le fusible, on s'en est débarrassé rapidement. Et pourquoi faire? Et puis, attendez, le fameux argument de la démocratie. On est des parangons et des fanatiques de la démocratie. Ouais, ben voilà, Morsi est arrivé au pouvoir par les urnes. Hein. Comment on fait? Ah non, on n'est pas content de Morsi parce qu'il est islamiste. Il était élu. Non, on veut un autre élu. Oui, ben c'est, je veux dire, alors, l'accusation d'impérialisme, alors là, c'est même plus une accusation, ça va être, on va incarner la quintessence de l'impérialisme, hein. C'est pas possible, comprenez? Donc, moi je pense que ni Obama, qui a été tout à fait surpris par l'émergence du printemps arabe, ni nos dirigeants, qui ont été totalement pris de court, alors qu'on a un certain nombre de gens qui sont dans les services de renseignement, qu'on paye, enfin, je veux dire, qui ont des salaires, qui sont là quand même pour, en principe, travailler à l'ambassade, ils sont attachés culturels, attachés, ou, enfin, bref, espions. Et il y a quand même 2000 personnels américains à l'ambassade au Caire, ils n'ont rien vu venir. On en a des dizaines à l'ambassade, à Tunis et dans d'autres. On n'a rien vu venir. Les dictateurs locaux n'ont rien. Les Israéliens. Israéliens n'ont rien vu venir. D'accord? Donc, vous voyez, alors c'est intéressant, ça vient vraiment des tréfonds, hein, ce printemps arabe. Donc, avec tout ça, l'Occident ne pouvait que constater et applaudir, et ça je pense, alors pour le coup qu'on ne le fait pas suffisamment, et applaudir aux efforts et au courage exceptionnel de ces jeunes gens qui ont offert leur poitrine aux balles des soldats, voire aux pinces des tortionnaires, ce qui est encore bien pire, et qui encore aujourd'hui luttent dans quelques pays, bon alors Syrie c'est un cas un peu à part, mais et qui ont été assez largement trahis, mais on n'en est qu'au début, je vous l'ai dit tout à l'heure. Là oui, on peut soutenir des mouvements démocrates, des partis démocratiques qui se créent, on peut les aider à leur financement, on peut les inviter ici, on peut faire des choses, mais certainement pas jouer encore sur un dictateur ou un autre. On n'est plus à l'époque de Bokassa, quoi. C'est pas, vous voyez. Et quelque part, je trouve, enfin, franchement, tant mieux, quoi. Moi, je suis très pro-occidental, je suis très content d'être français, il n'y a pas de problème. Mais je bats pas ma coulpe, mais enfin, je veux dire, voilà, ça se passe dans le monde arabe, c'est la révolution du monde arabe. On peut orienter ceux qui sont les plus, favoriser ceux qui sont les plus démocrates, mais on ne peut pas, bien évidemment, soutenir un régime vermoulu, surtout s'il est quand même dictatorial. On l'a fait au Rwanda, bravo, en 94. Alors là, si vous voulez, bon, c'est, faut même pas en parler. Donc, dernier point quand même de cette première partie, c'est l'Est, l'Europe de l'Est. Quelques observateurs, dont un philosophe que j'aime beaucoup, André Glucksmann, là-dessus je suis pas d'accord avec lui, ont dit, ah ben voilà, il y a eu la chute du mur, chute du communisme, et ben maintenant il y a le printemps arabe. Le parallèle m'a toujours paru assez difficile à faire, parce que 85-86, ça vient d'en haut, Gorbatchev, Glasnost, Perestroïka, ça vient de tout en haut, la volonté d'un homme qui fait passer ça aux soviets suprêmes, qui fait passer ça aux autres soviets, puis ben, quand on donne des libertés aux gens, ils les prennent. Bon. Donc, et puis finalement, tout s'effondre. Mais ça vient pas d'en bas. D'abord parce que la jeunesse en Europe de l'Est, si vous voulez, c'est portion congrue déjà à l'époque. Hein. Et puis c'est une jeunesse qui n'est pas vagabonde parce qu'on n'a pas le droit de vagabonder. Vagabonder au sens de porter les murs, comme on dit en Algérie. Bon, il fait beau, on est dans la rue, de toute façon, on n'a pas de boulot parce que le pouvoir ne nous en donne pas, Ben Ali ne nous en donne pas, le FN ne nous en donne pas, ben, on glande. Ben, bon. Alors ici, vous glandez pas, il n'y a pas d'histoire. Hein. Vous glandez dans les usines, mais vous êtes payé pour glander. Mais vous glandez pas dans la rue. Hein. Donc, mais comment on se révolte? Les effets de révolte avec les réseaux sociaux, là, comment c'est passé dans le monde arabe? Il y avait des gens dans la rue, il y avait des jeunes. Eh oui, 50% de la population qui a moins de 20 ans, hein, quand même, au début du printemps arabe. Hein. Dans les pays de l'Est, à l'époque, il n'y a pas de jeunesse. Il y a des jeunes, mais il n'y a pas une vraie jeunesse. Donc, parce que le taux de fécondité est très faible. Vous voyez. Donc, c'est quand même très, très. Et puis, ça vient de tout en bas. Le pauvre Bouazizi, il est tout petit et il se fait flamber dans une petite ville du plus petit, ou l'un des plus petits États arabes. Vous voyez. Ça vient des très fonds. Donc, je pense que sur ces deux points-là, vous voyez, on a vraiment une très grande dichotomie. Enfin, peu importe. Deuxième partie où on en est aujourd'hui. On est aujourd'hui. On en est qu'il y a, et on assiste, ma phrase est bancale, on assiste à une vraie guerre civile, hein, une guerre civile, pas au sens où c'est des civils qui se battent entre eux, c'est pas ça une guerre civile, bon, merci, ne tombez pas. Il y a une vraie guerre civile au sein du monde musulman et plus particulièrement du monde arabe. Au sein du monde musulman, vous avez un double clivage. Le clivage sunnite-chiite, j'invente rien, mais, et vous le constatez depuis des années, en deux mots, chiisme et sunnisme, 90% de sunnites hein, dans le monde. Hein. Continent africain, que des sunnites. France, musulmans, sunnites, sont tous sunnites. Chiites, c'est Moyen-Orient essentiellement. Et 10% de chiites. Bon. Au départ, la divergence, elle est surtout liturgique. Et elle porte surtout sur l'interprétation de l'héritage politique de Mahomet. Bon, gendre et neveu Ali doit prendre le pouvoir, ou c'est plutôt les califes. Bon. Bon, on peut se battre pour ça. On peut se battre pour la messe en latin ou pas en latin. On n'a pas de leçon à donner en France. Hein. On s'est battu peut-être pour moins que ça. Mais, ok, mais si vous voulez, on assiste à une instrumentalisation du religieux, de ce fait religieux assez mineur, au profit du politique. Parce que dans pas mal de sociétés arabes et musulmanes, chiites et sunnites, ont vécu parfois pendant des siècles en très très bonne intelligence. Et en tellement bonne intelligence que l'exogamie est très forte. Au Liban, les couples chiites, sunnites étaient aujourd'hui peut-être un tout petit peu moins forts, bon, mais il y a la guerre, mais au Liban, en Syrie, en Irak, des couples chiites, sunnites en très grand nombre. Bon, d'accord. Des troupes se sont battues ensemble contre des ennemis communs. Enfin, mais là, il y a instrumentalisation. Notamment parce que vous avez deux puissances tutélaires. Que sont bien sûr l'Iran pour le chiisme, la religion nationale c'est le chiisme en Iran bien sûr depuis les Safévides, et puis l'Arabie Saoudite, évidemment, cœur du sunnisme, et notamment alors un sunnisme qui rigole pas, qui a quand même très très peu d'humour aussi, c'est le wahhabisme sur lequel on peut revenir. Et vous avez un affrontement, une guerre froide, parce qu'ils se battent pas entre eux directement, comme les Russes et les Américains à l'époque, ils se battent pas ensemble, mais ils se battent par procuration dans la région, ils sont concurrents à plusieurs reprises et à plusieurs titres. Bref, on est là sur chiite, sunnite, et ça va au Moyen-Orient, et ça va durer. Mais ça devient, et c'est devenu une guerre de religion. On me dit, oh, mais c'est pas vraiment une guerre de religion, c'est politique. Oui, ben d'accord, enfin, dans ce cas-là, tout est politique. Oui, mais d'accord, enfin, c'est un sophisme de composition. Hein. Si rien n'est politique, tout l'est, et vice-versa. Moi, je veux bien. Au XVIe siècle, il y a des guerres de religion en France. C'est bien des guerres de religion. Elles sont utilisées par des empires politiques. Oui, non, mais d'accord. Mais l'objet, c'est quoi? Il y a des gens qui meurent. Ils meurent pourquoi? Au nom de quoi? Bon. Donc on est vraiment sur là, l'un des deux clivages. Deuxième clivage de cette guerre civile intermusulmane. Le plus ancien, enfin le plus ancien, je veux dire, du point de vue politique au XXe siècle, c'est celui qui oppose la notion de Watan et la notion d'Umma. Watan, c'est la nation. L'Umma, c'est un concept, c'est la maman en arabe. C'est un concept à la fois démographique, social, religieux aussi, qui est censé intégrer l'ensemble des communautés musulmanes, donc, jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus qu'un sur la terre, une seule communauté. L'Umma, ce serait être très défendu, instrumentalisé, déformé, dévoyé, si vous voulez, mais par les islamistes. Watan, c'est la nation, c'est les nationalistes. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais du maréchal égyptien Al-Sisi, qui vient de faire condamner à mort, là, ce matin ou hier, je ne sais plus. Bon. L'ancien président islamiste Morsi. Bien. On est revenu, comme je disais à Franck tout à l'heure, en 66. Nasser faisait pendre Sayed Qotb, qui était le chef de la confrérie des frères musulmans. On revient exactement au même schéma. Et là, regardez à quel point, en Syrie aussi, en Irak un peu moins, on a affaire donc à des forces sunnites contre chiites, mais aussi à des forces nationalistes contre islamistes. Hein, c'est vachement intéressant. Donc vous avez un double clivage qui transcende durement, violemment aujourd'hui le monde musulman jusqu'en Afghanistan, jusqu'au Pakistan, hein, où les mosquées chiites sautent à un rythme mensuel. Bon. Et puis au sein même du monde arabe, et là on focalise sur le monde arabe, qui est très 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 majoritairement musulman. Petite incise, hein, 1,5 milliard de musulmans, 300 millions d'arabes. Hein. Donc tous les musulmans ne sont pas arabes, au contraire. Et d'ailleurs il y a de moins en moins d'arabes par rapport aux non-arabes au sein du monde musulman. Hein. Parce que la transition démographique, elle a été faite. Hein. Par contre, elle n'a pas été faite au Bangladesh. Hein. D'accord, bon. Donc, et en revanche, presque tous les Arabes, maintenant, sont musulmans. Pourquoi je dis maintenant? Parce que les quelques communautés juives sont parties dans les années 50-60. Et puis, là, les chrétiens. Chrétiens d'Orient, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Au sein du monde arabe, il y a un phénomène de balkanisation. C'est-à-dire de morcellement interne. Ça a commencé en Somalie, en 91, avec l'opération américano-onusienne Restore Hope, vous avez aujourd'hui trois Somalies, dont aucune n'est réellement un État au sens géopolitique du terme. Les prérogatives d'un État, peut-être Puntland, Somaliland, mais dans la Somalie originelle, Somalie Mogadiscio, non, c'est vraiment un État failli, un État effondré, comme on dit en géopolitique. Y règnent les Shebabs, c'est les jeunes, qui sont des islamistes radicaux et qui sont, je n'hésite pas à le dire, je suis enregistré, il y aura plein de témoins, qui sont des islamo-nazis. Quand on arrête un bus au Kenya voisin, qu'on fait descendre les gens, qu'on met les chrétiens d'un côté et les musulmans de l'autre, et qu'on assassine les chrétiens et qu'on laisse repartir les musulmans, on fait œuvre de nazisme. Tout, je suis désolé, il n'y a pas de... Enfin non, je ne suis pas désolé, c'est comme ça. Pas besoin de créer un camp de concentration pour être un nazi. Bon. Donc là, on a l'islamisme radical au sens le plus violent, le plus raciste du terme. Bon, Daesh fait ni mieux ni pire, hein. Enfin, pas très originaux, hein. Les Shebabs ont commencé avant eux, hein. Al-Qaïda fait ni mieux ni pire. Après, dans les modalités, ça change un peu, hein. Les couteaux sont plus ou moins aiguisés, bon. Mais pour l'essentiel, on est sur les mêmes pratiques qui sont parfaitement ignobles. Donc, cette balkanisation a d'abord touché la Somalie qui s'est effondrée. Aujourd'hui, vous avez trois régions plus ou moins autonomes, mais la Somalie en tant qu'État n'existe plus. Avec le printemps arabe de 2010-2011, ça s'est étendu. La Libye n'existe plus. Je veux pas faire Alexandre Adler, hein, je limite mal, mais je pense que sans faire mon petit prophète, que la Libye n'existera plus jamais. Je veux dire, il y aura une autre Libye. Mais la Libye italienne, entre guillemets, de 1951, d'avant 51, Libye coloniale, en quelque sorte, hein, dans ses frontières tracées, vous savez, au cordeau, là, par les Italiens, les Anglais, les Français, bon, en Afrique et ailleurs, n'existera plus. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui prévalait avant la mise au pas de Kadhafi qui a créé une espèce d'opni, d'objet politique non identifié. La Libye de Kadhafi, c'était quelque chose, c'était pas vraiment un État, c'était pas vraiment une tribu, c'était pas vraiment une région, c'était autre chose. Bon, c'était surtout lui, quoi, parce qu'après il s'en va, tout s'effondre, parce qu'il n'y avait rien, il n'avait rien construit. Bon. La Libye, la société libyenne, revient à son mode de fonctionnement interne et à son mode d'exercice des rapports de force sociaux, c'est-à-dire des modes essentiellement claniques et tribaux, et non pas étatiques, et pourquoi pas, hein. C'est les Européens qui ont imposé l'État-nation. Tout, bon. Donc la Libye, de ce point de vue-là, n'existera plus. L'Irak n'existe plus, n'existera plus. notamment parce que les Kurdes sont indépendants, quasiment, enfin, ils sont de facto, et parce que les chiites ne veulent plus vivre sous la coupe des sunnites, et vice-versa. Par conséquent, vous avez déjà trois Iraks. Bon. La Syrie, alors on verra si Assad tient, ça fait 5 ans que je dis qu'Assad tiendra très longtemps, moi je pense qu'il tient encore, mais il tient en tout cas sur une partie de la Syrie, une petite partie. Le reste, c'est autre chose. C'est l'État islamique, c'est Daesh, bon, demain ce sera peut-être autre chose, mais ce ne sera plus la Syrie. Forgé par les Français dans les années 10 et 20, quoi, avec les Anglais. Bon. Vous voyez, alors il y a d'autres. Le Yémen, pareil. Le Yémen aujourd'hui est un État effondré. Il y avait deux Yémen avant 94. Je pense qu'on va dépasser ce chiffre. Hein, le Sinaï, égyptien. Autant l'Égypte et la Tunisie, par exemple, ou l'Algérie sont des États qui ont toujours été centralisés. Il y a une tradition centralisatrice dans ces États qui les préserve en principe d'un clanisme trop fort. Sauf que, en Égypte, il y a le Sinaï, hein, qui jouxte à la fois Gaza et Israël, et puis donc la mer Rouge. Bon. Et là, le Sinaï, il y a du pétrole, il y a du tourisme, il y a des pipes qui passent, et puis il y a le canal de Suez. La première rente, vous vous rendez compte, la première rente de l'Égypte, c'est le canal de Suez, les bateaux qui passent tous les jours, les supertankers. Bon. Et là, l'armée égyptienne, toute puissante qu'elle est, elle ne tient pas le Sinaï. Ça devient une zone grise, on dit en géopolitique. C'est pas qui contrôle les trafics d'humains, trafic d'armes, trafic de pétrole, etc. Avec la criminalité qui se lie au terrorisme, et là, vous avez, idéologique, et là, vous avez vraiment un baril d'explosifs. C'est embêtant, ça. Hein. Le Sinaï, les zones grises, c'est vachement embêtant. Alors, l'Égypte va rester l'Égypte, mais le Sinaï, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, vous voyez, on a là une balkanisation, donc un effondrement de la puissance de la Ligue arabe, Ligue des États arabes, hein, qui regroupe les 23 États arabes qui existent aujourd'hui, si vous comptez l'État de Palestine, enfin, l'autorité palestinienne. Donc, 23 États. Aujourd'hui, il y a un effondrement. Aujourd'hui, la Ligue arabe, elle représente qui ? Et là, je vous ai parlé des États qui étaient effondrés. Mais ceux qui ne le sont pas connaissent une paupérisation due à l'instabilité que tu évoquais en introduction, qui est aujourd'hui réellement, réellement gravissime. Je voudrais conclure avec cette deuxième partie, puis après, je prends une petite conclusion, puis on discute, hein, c'est pas un cours. Je ne sais évidemment pas comment ça va se terminer, mais ce qui est sûr, je crois, ce que je crois sûr, c'est que nous allons assister à la création de nouvelles frontières et de nouvelles formes d'État. Tu as parlé tout à l'heure, je crois que c'est d'ailleurs même le titre de l'affiche de ce soir, l'instabilité. En fait, la stabilité est un concept très relatif, mais l'instabilité plus encore. Vous pouvez avoir des systèmes qui vous paraissent instables, parce que décidément, chaque année, le pouvoir change, le gouvernement change, ou carrément le régime global change, des frontières sont modifiées. Une instabilité qui, au fond, devient, comment vous dire, qui consiste en une machine qui tourne elle-même, et où les gens ne sont pas nécessairement plus malheureux que lorsqu'ils vivaient sous le dictateur extrêmement stable depuis 50 ans. Je ne vais pas revenir à ce que je disais dans mon intro. Voyez. L'instabilité, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, il est bien évident que le monde arabe vit dans une instabilité chronique depuis le printemps, du même nom. D'accord, forcément. Mais est-ce que Kadhafi, de son vivant, il avait instauré un système? Est-ce que son pays était stable? Pour nous, oui, parce qu'il n'y avait pas d'immigrants qui allaient en Méditerranée. Ah oui, ah oui. Bon, donc pour nous, c'était vachement pratique. Oui, non, mais d'accord. Oui, oui. Enfin, quand il faisait sauter des avions, hein, les DC-10 du TA ou l'avion de Lockerbie, là, il n'était pas stable. Hein. Quand il envahissait le Tchad en 83 et qu'on était obligé de d'envoyer nos hommes, qui sont toujours, opération Manta puis opération Épervier de 1983 et 86. Ils y sont encore, vous dis-je. Bon, ben là, il n'est pas stable, le Kadhaf, vous voyez. Bon, quand il mettait le doigt et du pétrole et des terroristes dans une partie de l'Afrique subsaharienne pour obtenir l'allégeance des chefs d'État d'Afrique subsaharienne, il déstabilisait la région. Lorsqu'il empêchait l'UMA, alors c'est un jeu de mots, Union du Maghreb arabe, hein, Union du Maghreb, qui a failli se faire plusieurs reprises entre le Maroc, l'Algérie, Tunisie et lui, il mettait à chaque fois le bazar. Il cassait tout. Lorsqu'il attaquait la Tunisie, on l'a oublié, ça. Hein, il n'était pas stable. Hein. Bon... donc la stabilité des uns, hein, voilà. Donc moi je serais assez, d'abord je suis relativement optimiste sur le fait que ça va, qu'il y ait une société ou des sociétés qui sont en train d'émerger avec de véritables partis politiques, avec des courants politiques, idéologiques, philosophiques au sein du monde arabe. Nous, avant notre révolution française, on a vu un siècle de philosophie. Bah, les potentats et les dictateurs arabes n'ont pas permis ça à leur population. Pas permis. C'est pas les pauvres gens qui avaient pas de... C'est pas qu'ils philosophent pas, hein. C'est que c'était interdit. Bah, donc bah, faut que ça se fasse. OK, faut que ça mature. La démocratie, c'est pas un bulletin dans une urne, hein. C'est l'une des très nombreuses caractéristiques, hein. C'est vraiment c'est pas grand-chose, hein. C'est bien, mais ça suffit pas. Tant s'en faut. Donc c'est en train de se faire. Mais les frontières seront différentes. des systèmes politiques peuvent être créés, pas vraiment ultra-conservateurs, pas vraiment marxistes, un peu des deux. J'étais là il y a quelques jours, voir un peu ce qui se passait chez les... à l'époque, ça s'appelait Moudjahidine du peuple, là, les opposants iraniens. Alors bon, il y a un discours un peu marxo-progressiste, en même temps les femmes, on dit déjà, on essaie de comprendre un peu hein, ça, bon, à quoi ils ressemblent, et ben ça sera autre chose. Hein, c'est pas grave. Le monde arabo-musulman a le droit aussi d'avoir un petit peu son maelstrom politique et philosophique, et on est en train de le vivre. Sur la France. Ces prochains jours sera signé vraisemblablement un accord très important, très fondamental du point de vue de l'ensemble du Moyen-Orient, entre les 5 plus 1, c'est-à-dire 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, d'une part, la République islamique d'Iran, d'autre part, en vertu duquel l'Iran, en principe, ne pourra pas fabriquer de bombes atomiques. Alors ça, c'est très bien, c'est formidable, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, il le faut, parce que le traité de non-prolifération de 1968, c'est un peu l'architecture de la paix mondiale. Tout le monde a toujours respecté. Attendez, il y a des États qui ont fait la bombe, mais qui n'ont pas signé. Bon, alors c'est différent. L'Iran est signataire, a toujours été signataire, depuis le Shah et jusqu'à aujourd'hui. Si l'Iran faisait la bombe maintenant, il y aurait une prolifération régionale et mondiale catastrophique. Vraiment, ce serait, à Dieu ne plaise, parce que je peux vous dire que là, ce serait vraiment la guerre, à court terme. Donc je pense que l'Iran va renoncer à ça contre d'autres avantages. J'entends beaucoup de gens, y compris des amis, des observateurs, y compris des gens avec qui je suis souvent d'accord, qui me disent « Ah, l'Iran, c'est quand même l'Iran, ils veulent la bombe, et puis c'est pas démocratique, et puis ils pendent des gens. » Le terrorisme qui a frappé la France, 85-86, 94-95, deux fois déjà, qui a frappé récemment, d'abord de Toulouse, musée juif de Bruxelles, et évidemment Charlie Hyper-Cacher, ça, c'est 100% d'un terrorisme d'origine sunnite. Je ne dis pas que les sunnites sont terroristes. D'origine salafiste, en réalité. Mais donc sunnite. Il n'y a pas de salaf chez les Iraniens, chez les chiites, vous oubliez. D'accord. Donc l'Iran joue son jeu. C'est un jeu qui, parfois, est assez déstabilisant. Okay, je reprends un terme dont je me méfie moi-même. Le terrorisme, il vient pas de là. Les Saoudiens et les Qataris vivent sur des systèmes religieux, théologiques, qui sont des systèmes de nature théocratique, extraordinairement violents, racistes, antisémites au dernier degré, anti-laïcité, le mot n'existe pas en arabe, donc la laïcité, ça n'existe pas. La France, elle est pourrie par les juifs, par les francs-maçons, par Lions Club, Rotary Club. Ah, vous vous reconnaissez peut-être sur certaines de ces catégories. Alors sachez que vous êtes condamné à mort, hein, donc voilà, il faut le savoir. Ça, c'est l'Arabie Saoudite et c'est le Qatar. Alors, des fois, ils font un effort, ils mettent une cravate, mais je vous affirme, et là je ne plaisante pas, je vous affirme que Daesh, Al-Qaïda dans une moindre mesure, Daesh en tout cas, l'État islamique, sont des émanations idéologiques et matérielles et financières de ces régimes-là. Alors aujourd'hui, le golem se retourne contre eux. Ah, bah, c'est embêtant, ça. Hein, et comme les Saoudiens ne se battent pas, faut bien qu'ils demandent aux Américains un peu d'aide et assistance. Voilà. Ils savent très bien se battre contre en bombardant des femmes et des enfants au Yémen. C'est eux. Hein. Donc l'Iran, c'est une chose à surveiller. Le nucléaire, oui, bien sûr, très bien, si vous avez des questions, il y en a. Mais je crois qu'il faut surtout en finir avec la complaisance. La complaisance, un terme que j'aborde, que j'exècre. La complaisance. Alors, quand on se bat, il ne faut pas être complaisant, il faut être debout. Donc on n'est pas complaisant avec le fascisme, on n'est pas avec le nazisme, on n'est pas avec le stalinisme, on n'est pas avec l'islamisme radical. Et ces États-là, ces régimes politiques, je ne parle pas de la population, ils n'ont pas le choix, mais ces régimes-là portent une lourde responsabilité dans l'expansion de ce qui, d'ailleurs, maintenant, leur retombe dessus. Hein, avec Daesh, à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar notamment, l'islamisme radical qui frappe jusqu'en Afrique subsaharienne, qui frappe avec Boko Haram jusqu'aux Philippines, dans nos banlieues, etc. Bon. Donc ça, je pense qu'il faut maintenant commencer à leur tenir la dragée haute et leur dire, écoutez, mais c'est gentil, mais vous achetez des avions, mais d'accord, mais il n'y a pas que ça quand même, il n'y a pas que ça. Vous arrêtez maintenant de nous envoyer vos imams cinglés et vous arrêtez de prêcher systématiquement la haine de l'Occident, la haine des chrétiens, d'abord la haine des musulmans, d'abord qui ne sont pas des wahhabites, hein, parce que c'est les premières victimes, c'est quand même des musulmans, la haine des juifs, etc. Donc ça commence à bien faire. Et on a des biscuits communs pour leur mettre la pression. On a des biscuits, hein, surtout avec l'arrivée sur le marché des gaz de schiste, hein, ça va, on a des biscuits. Donc, et puis enfin, pour ce qui concerne ici, la France en particulier, parce que l'Arabie Saoudite, moi, j'y vote pas. De toute façon, personne n'y vote. Bon, je suis pas citoyen, enfin, je suis pas sujet, de Sa Majesté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux brailler à partir d'ici, je peux faire des conférences, j'en fais, je fais des bouquins, je fais des tribunes, et très bien, bon. Mais en France, non, je suis chez moi en France. Et ici, on respecte les valeurs de la République. On respecte pas, on s'en va. Je me fous de la couleur. Je me fous du prénom, je me fous du nom, et je me fous de la couleur des cheveux, et des yeux, et de tout ce que vous voulez. On respecte les valeurs. Je ne crois pas un seul instant au choc des civilisations. On peut y revenir tant que vous voulez, vraiment, ça me fera vachement plaisir de discuter avec vous. Huntington, ça tient pas la route quand on fait de la géopolitique sérieusement. Mais le choc des valeurs. Pas exactement pareil. Le choc des valeurs. Hein. Et ce choc transcende les différentes communautés, les différentes nationalités, les différentes religions. Et c'est quelque chose qui me paraît très important à dire, et à dire avec une voix forte et vigoureuse. Le problème n'est pas l'islam. Le problème, aujourd'hui, se trouve dans l'islam. C'est Abdelwahab Medeb, qui est un type remarquable qui nous manque, mais qui va nous manquer pendant des décennies. Le pauvre, il est mort prématurément d'un cancer en novembre. Il était producteur de super émissions sur France Q. Et il a fait des super bouquins. Abdelwahab Medeb disait, en fait, il y a en ce moment la maladie de l'islam. C'est quoi, on lisait son bouquin. Et en fait, il était lui-même musulman, il n'allait pas dire du mal de l'islam. Mais la maladie de l'islam, en fait, c'est le fanatisme. Bah, le fanatisme, il touche à certains moments, je crois beaucoup à la diachronie des sociétés, des États, il peut toucher chaque religion, il peut toucher chaque société humaine, chaque communauté, etc. En ce moment, et depuis quelques décennies, elle touche, ce fanatisme touche en particulier une partie importante de l'islam. C'est pas du tout les insulter, au contraire. Combien de gens d'origine de culture musulmane nous le disent, à nous autres démocrates, qui que nous soyons, aidez-nous. À casser ces islamistes fous, là, à libérer les femmes, etc. Bon, ils le disent eux-mêmes. Et nous, on va les laisser tomber. Bon. Donc je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, ni amalgame, ni complaisance. Après Charlie et l'hypercachère, on a vécu dans la légitime religion de pas d'amalgame. Pas d'amalgame, c'est pas... D'abord, c'est pas des vrais musulmans, c'est autre chose. Ah oui, c'est quoi, alors? Ouais, en tout cas, eux, ils s'en réclamaient, hein, je suis désolé, mais enfin, il faut nettoyer quelque chose, parce qu'il y a un problème, là. Hein. Bon, ils ne se réclamaient pas du judaïsme ni du protestantisme, n'est-ce pas? Bon, oui, mais donc, ils n'étaient pas de la planète Mars, donc il y a quelque chose, il y a un problème. Bon, donc, ok, pas d'amalgame, aucun problème, pas d'amalgame et pas de complaisance. Il n'y a pas de complaisance à avoir avec l'islamisme radical. Et notamment pas en France. Nous vivons dans un très vieux pays qui s'est battu pendant des années, sinon des siècles, le gallicanisme... Un Philippe le Bel qui a légiflé le pape, ça remonte pas hier quand même. Hein. Dans un pays laïque, profondément laïque, ça veut pas dire athée. Laïque, dans un pays où la nation signifie quelque chose, signifie encore quelque chose. Moi, je suis très attaché à l'idée de nation. Pas de nationalisme, hein, la nation. Parce que si c'est pas la nation, c'est la tribu et c'est le clan. Et c'est la guerre civile. Voilà ce que je pense. La nation, elle transcende. Et la République. Et ça, la République, l'article 1er, les sociales, je ne vais pas vous le refaire, parce que bon, ce serait vous injurier. Bon, égalité homme-femme, machin et tout. Et ça, je pense que c'est des retranchements qu'on ne peut pas abandonner, en dépit de la trahison des clercs, hein, évidemment, Todd, évidemment, oui, vous avez manifesté, vous êtes tous des maurassiens, d'accord, j'exagère même pas en plus, hein, voilà, Morin, Boniface, vous voyez, voilà, tous les, vraiment, la trahison des clercs, ou ceux qui ne sont même pas clercs, d'ailleurs, je pense qu'il faut lutter plus que jamais contre ces complaisants, notamment dans notre pays, dans notre société. Parce qu'au Pakistan, bonjour, hein, bon courage à vous. Ici, on est chez nous. Donc tout le monde, hein, y compris évidemment les gens d'origine musulmane, bien évidemment, qui sont encore une fois souvent les premières victimes. Hein, je ne suis pas en train de stigmatiser, au contraire. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement fondamental. Je conclue d'une seule phrase très courte. Qui est-ce qui dit ça? Oh, j'ai bien bossé ma citation, c'est toujours bien de finir avec une citation, je l'ai bossé tout à l'heure, là, honte, j'ai oublié, c'est qu'est-ce qu'il disait Deux périls menacent le monde, Paul Valéry. Deux périls menacent le monde, l'ordre et le désordre. C'est génial. Si on laisse entrer le désordre, des ordres terroristes, des ordres, en l'occurrence, en ce moment, islamistes, radicales, alors on va appeler l'ordre. Les gens en auront assez et ils vont exiger l'ordre. Vous m'avez compris lorsque je parle de l'ordre. Hein. Je vous remercie.
Bien, alors merci Frédéric pour ce timing parfait, 50 minutes, hein, donc on a le temps de réagir, de poser des questions, en tout cas on ne s'est pas ennuyé, tu nous as réveillés, ton dynamisme nous entraîne, je pense, tous à réagir, à poser des questions, j'en ai plusieurs, mais je vais laisser la parole à vos chers publics, qui sans doute veut intervenir très vite, en tout cas tu as très bien rappelé les origines de ce printemps arabe, en montrant notamment ses racines aussi. Il y a eu un printemps aussi des peuples, tu l'as très bien dit, en 1848 ici en Europe, qui est souvent oublié, et je crois que c'était en classe de seconde qu'on faisait ça, le 19e siècle. Et bien souvent, on escamotait 1848, pourtant c'est un grand moment de la civilisation occidentale et de notre Europe occidentale. Et tu as évidemment critiqué la notion d'instabilité et nous rappelant que donc il faut sans doute repenser autrement ces rapports géopolitiques et envisager autrement notre analyse des suites des printemps arabes. Et ta conclusion nous invite évidemment à une réflexion encore plus profonde sur l'avenir de notre pays et en particulier sur les rapports et la dimension politique de l'avenir de notre pays. Car c'est Pierre Nora qui a dit récemment, je crois, dans Le Figaro, Pierre Nora qui disait qu'on traverse sans doute la plus grande crise d'identité de notre nation. Pierre Nora, qui est sans doute un des intellectuels les plus brillants actuellement, qui est un historien, qui a influencé l'ensemble de la recherche historique mondiale avec ses lieux de mémoire. Et je pense aussi qu'il y a une vraie crise d'identité. Et cette idée de nation que tu reposes au centre de l'avenir de notre pays est une idée qui, je pense, est quand même en grande partie en déshérence parmi la jeunesse, mais on pourra en discuter, et pour certaines raisons. Et il est probable que c'est pourtant autour de cette notion-là que la France, si elle veut conserver son unité et son avenir, doit revenir. Voilà, donc je vous laisse réagir, je vous laisse poser des questions. Je vous invite à poser des questions parce que sinon ça va se terminer en débat à deux et ce serait dommage pour vous. Donc,
on est d'accord, c'est bon, pardon.
Donc, ça dépend, on pourrait. Non, profitez-en de ce moment pour intervenir.
Alors, monsieur dit, pour ceux qui n'ont pas entendu, l'Europe, au niveau de la complaisance, elle est à fond dedans. Alors, ça dépend de ce que vous appelez. Alors, d'abord, c'est vraiment ce que l'Europe géopolitique, ça n'existe pas vraiment. Enfin, il y a certains théâtres d'opérations sur lesquels on est d'accord, on intervient. Contre les pirates en mer Rouge, bon, une force européenne, ok. Un peu au Kivu, donc Congo oriental. Si sur l'Ukraine, on était relativement unis, bon, enfin derrière les Polonais, bon, globalement, voilà, il y a quelques. Mais effectivement, sur le Moyen-Orient, monde arabe, on est vraiment on est assez dispersé. D'abord, les diplomates baltes que je rencontre et est-européens parfois, mais récemment en Baltes, me disent ouvertement, mais vos Maliens, complètement, hein, fallait pas les coloniser, hein, donc maintenant vos Algériens qui remontent là, qui traversent la Méditerranée, ça ne regarde pas. Sympa les mecs, donc, et en même temps, ils ont eux le grand épouvantail russe qui constitue la quasi-totalité de leur horizon en matière d'affaires étrangères et de défense, pour ce que je peux comprendre. Donc il y a ça, il y a le fait que certains États européens abritent des communautés d'origine musulmane relativement importantes. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour l'Allemagne. L'Allemagne est un cas à part, d'ailleurs, parce que c'est essentiellement turc et kurde. Donc, bon, et puis il n'y a pas de droit du sang, donc c'est un contrôle. Bon, enfin, c'est le droit du sang, pardon, et pas le droit du sol. Bon, donc, c'est à l'Est, pour faire court, on s'en fout. Printemps, ces questions-là, il est hors de question d'envoyer le moindre avion bombarder le moindre bonhomme, que ce soit en Syrie, en Irak, au nord ou au sud. Enfin, bon, ils n'ont pas d'argent pour ça. Bon, et puis ils laissent faire les Américains. Bref. Donc on se retrouve un peu, l'Europe de l'Ouest, en fait, et surtout les Français, les Britanniques, les Allemands, un peu les Belges, on se retrouve, et les Italiens à cause des migrants, on se retrouve pratiquement seul au front, on n'est pas vraiment unis. Alors après, tout dépend de ce que vous appelez vous-même complaisance.
La mentalité interne, ce que développent les médias internes par rapport à la complaisance.
Oui, je pense que c'est notamment vrai chez nos petits camarades, moins en France. J'étaye mon propos, je pense qu'en France, on tient le coup. On tient mieux le coup que ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, peut-être même en Grande-Bretagne. Je me souviens d'Angela Merkel, qui disait, lors d'une conférence de presse commune avec Sarkozy, lorsqu'il était président, je la cite, hein, au mot près, hein, « Chez nous, en Allemagne, le multiculturalisme a complètement échoué. » Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les communautés, un peu comme en Suède, aux Pays-Bas, on fait rentrer des gens, on ne leur impose surtout pas la langue nationale. Ben non, il ne faut pas être impérialiste, hein, non. Donc on ne fait pas apprendre le français, ben non, bien sûr, pour trouver du boulot, bonjour. Hein. Alors c'est vrai, très bien. On ne leur impose surtout pas un minimum d'apprentissage de l'histoire et de la géographie. Ben non, il ne faut quand même pas être impérialiste. mais si, pour moi, je suis républicain, je vous l'ai un peu compris, quoi, très très fanin, quoi, c'est complètement délirant. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le communautarisme en vigueur aux Pays-Bas, notamment à Rotterdam, à Bruxelles, en Wallonie, un peu moins en Flandre, en Allemagne, est en train de se et en Angleterre, est en train de se retourner contre ces pays-là. Parce que vous avez des communautés entières dont, dans lesquelles les enfants n'apprennent même pas la langue, ils sont là déjà depuis 2-3 générations, hein. Les Pakis et les Bangladais à Londres, ils parlent très 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 mal anglais. OK ? Et ils ne travaillent qu'entre eux, ils se marient qu'entre eux, dans endogamie totale. Et une fois de temps en temps, il y a un bonhomme qui sort et qui dit bah, moi je vais aller jusqu'au bout. Et puis, j'ai pas arrêté de dire que j'ai pas arrêté d'insulter la reine et l'Angleterre, etc., devant les flics qui disaient rien, qui sont même pas armés. Et maintenant, je passe à l'acte. 2005, passage à l'acte à Londres. C'est-à-dire que les Anglais ont commencé à. Et après, ils ont commencé à expulser leur capitaine Crochet chez nous. Là. Ils nous l'ont expédié, le type qui hurlait à la mort en permanence. Heureusement, ici, on a des outils qui sont plus importants. D'abord, quand même, 1905, la laïcité, ça tient le coup. Ensuite, vous avez un système judiciaire que nous envient les voisins. Mais ça, on y a, c'est pas la force du hasard, hein, on l'a bien voulu, Manuel Valls, en novembre dernier, avant Charlie et Hubert Cacha, a renforcé les mesures antiterroristes. Aujourd'hui, il y a plusieurs chefs d'inculpation qui ont été créés, qui sont d'ailleurs dénoncés par des associations et des organisations droits-de-l'homistes, hein, et par des juristes. Hein. Donc moi, je suis d'accord avec le gouvernement, mais je peux entendre les arguments consistant à dire « Attention, on est en train de tomber dans le piège, la démocratie ». Perdant sa vocation et par conséquent ses libertés démocratiques, est en train de devenir ce qu'elle combat. Bon, alors moi je pense qu'on est encore loin, hein, des barbares qui nous balancent des couteaux. Enfin, le débat il est là quand même, hein, et puis on va aller de plus en plus loin. Plusieurs représentants de la nation ont déjà demandé la déchéance de nationalité. La dernière fois que ça a été fait, c'était quand même à Vichy. Hein, donc, alors, c'est pas pour ça que la référence totale doit rester ad vitam aeternam, 42, Pétain, Vichy et les Juifs. Hein, y a pas de... Ok, s'il faut le faire, il faut le faire. Mais attention, ça veut dire qu'on est en train de... Mais parce qu'on est en temps de guerre et que, en temps de guerre, il faut utiliser des moyens particuliers pour survivre et nous sommes attaqués en tant que pays de liberté et de démocratie, mais ça veut dire qu'on passe un cran et que ça doit être extrêmement... d'abord... établi dans le temps et vérifié par la représentation nationale à un rythme régulier. Et ces mesures d'exception. Et puis en plus, vous ne pouvez pas déchoir de ces nationalités quelqu'un qui n'est que français, parce que vous en faites un apatride. On n'a pas le droit. Alors vous pouvez me dire, mais attendez, arrêtez le droit, enfin, c'est ce qu'on veut. Oui, mais d'accord, mais alors dans ce cas-là, c'est un cran supplémentaire. Et puis là, je peux vous dire que l'Union européenne, vous me tombez dessus, hein, bien comme il faut. On s'en fout de l'Union européenne, peut-être. Mais alors, c'est un choix qui va être encore plus radical. Puis ensuite, peine de mort, etc. Donc, il faut utiliser des armes efficaces face aux barbares, mais en faisant toujours très attention de ne pas le ressembler. Alors après, je vous dirais quand même qu'en France, les mesures qui ont été prises sont extrêmement efficaces. Rien n'est à 100%, c'est efficace. Je suis consultant pour le RAID. Le directeur du RAID me disait début décembre, de toute façon, ça va taper. Tous les voyants sont rouges. On sait que ça va taper, on ne sait pas où. Et si on a de la chance, ils ne sont pas malins et ils feront qu'une prise d'otage ou un attentat et deux, mais pas plus que deux. Quoi. J'étais à Libreville en train d'enseigner la géopolitique au moment de Charlie. Je vois sur les bandeaux dans la télévision, tout Libreville regardait ce qui passait en France. Hein, le Gabon était porté là-dessus. Et deuxième prise d'otage à 25 km. Si vous voulez, là, c'est le cauchemar qui se réalisait. Bon, il se trouve qu'ils ont été, Dieu merci... Ils ont été nuls, on va dire ça comme ça. Pas assez, mais enfin, ils ont été très mauvais dans l'organisation, les terroristes. Et on s'en est sortis avec... ça aurait pu être bien pire, ce que je veux dire, ça aurait pu être... Bon. Et ils ont des effectifs supplémentaires, ils ont protégé davantage des personnalités depuis Charlie et Hubert Cacha. Je suis bien placé pour vous le dire. Vous avez aujourd'hui des moyens supplémentaires qui ont été pris, des arbitrages budgétaires qui ont été acquis par Cazeneuve, avec Valls, machin, Le Drian. Tout le monde fait très bien son boulot.
Le reproche des organisations des droits de l'homme aussi en France, c'est de comparer ce qui est mis en place par le gouvernement français avec ce qui a été mis en place par le gouvernement des États-Unis et qui devait aussi être provisoire et qui finalement a demeuré et qui a servi au gouvernement des États-Unis pour établir une sorte de contrôle pérenne finalement sur la population américaine et qui devient quasiment liberticide et aujourd'hui qui a du mal à être mis en question. Donc au fond, les organisations des droits de l'homme en France craignent aussi cette dérive, tu vois.
Oui, mais c'est juste. Et quand vous augmentez un cran... la sécurité, D'abord, ça se fait forcément au détriment d'un certain nombre de libertés, mais après, vous avez du mal à revenir derrière, parce que vous avez des partis politiques ou des mouvements politiques ou des simples citoyens qui disent « Mais attendez, vous voulez revenir en arrière ?» D'accord. Putain, s'il se passe un truc... Alors là, et là, quand vous êtes au gouvernement, si vous retirez les flics ou les militaires de quelque part et que le lendemain, il se passe un truc, vous rendez compte de ça ? De là, si vous voulez, plus personne veut prendre la responsabilité politique une fois que ça a été adopté, une mesure un peu sévère, vous voyez, de revenir en arrière. C'est ça qui est terrible. Et là, c'est la faiblesse, la force morale, mais la faiblesse stratégique de nos démocraties. On ne peut pas ressembler à ceux qu'on combat, tant mieux d'ailleurs.
Excusez-moi, si je peux rajouter un élément, on se trouve en politique intérieure avec un parti extrémiste de droite qui se targue d'être le premier parti de France. Donc si on met ce fait-là à l'aune de ce que vous dites, ça peut également, en 2017, on peut imaginer. Et donc une instrumentalisation plus importante des mesures qui sont bonnes selon vous, mais qui sont effectivement liberticides.
Je ne dis pas qu'elles sont bonnes moralement, je dis qu'elles sont sans doute nécessaires en temps de guerre. Et à partir du moment où vous... Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas de mesures, entre guillemets ou sans guillemets, liberticides, et que vous prenez des coups terroristes, qui auraient peut-être, je dis bien peut-être, on ne fait jamais l'histoire, qui auraient pu être évités, par des coups de canif aux libertés. Les gens vont faire exactement ce que vous craignez, et ce que je crains aussi personnellement, je ne suis pas de politique intérieure, mais voilà, ce que je crains aussi, bien sûr. Ils vont voter extrémistes. Moi, je ne veux pas ça. Donc, et en même temps, du coup, l'opposition ou une opposition à l'actuel gouvernement, et notamment une opposition à gauche, est en train de dire, mais vous faites le jeu, vous suivez le FN justement pour essayer de ne pas perdre des voix vis-à-vis de lui. Et d'ailleurs, c'est sur des reproches qui sont faites au leader de l'opposition actuelle, donc Sarkozy, par une partie de la droite qui dit, mais tu vas à la pêche aux voix d'extrême droite. Mais alors, la question, elle est philosophique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cherche à éviter l'avènement d'un ordre avec un O majuscule, une espèce d'ordre noir, vous appelez ça comme vous voulez, ordre, j'en sais rien, enfin, en tout cas, ou totalitaire, ou en tout cas autoritaire, voilà. Ou est-ce que c'est secondaire et il faut garder le cap sur une stricte réglementation démocratique des mesures à prendre? Moi, je pense ça, mais je pense que vous aussi. Mais en même temps, c'est un risque, c'est un piège. C'est quand même un risque. Moi, je pense qu'il faut quand même en tenir compte. On n'a pas de honte à en tenir compte. Sachant que, attendez, là, on discute. Eh, ça va, tout va bien, on triomphera. Hein. L'Allemagne, l'Italie dans les années 70-80, mais prenez des coups. Mais enfin, je veux dire, le Japon dans les années 70, alors c'était le terrorisme rouge, bon, c'était des natures différentes, ils étaient peut-être moins nombreux. Ouais, enfin bon, c'était extrêmement dur. La France a un peu moins pris dans les années 80-90. Bon, et un peu aussi. Et sans son, c'était démocratie qu'on considérait comme faible. L'Italie était censée de s'effondrer. L'Italie ne s'est pas du tout effondrée. Donc il faut rester sûr de nos valeurs, il faut rester convaincu que l'éducation c'est important, que l'autorité à l'école c'est important, maintenir une dimension sociale. Attention, je ne suis pas en train de dire, hein, surtout pas moi, hein, je ne suis pas en train de victimiser les mecs, hein, pour moi c'est vraiment là-dessus, je ne victimise pas. On peut analyser le fait que certaines personnes en désespérance, notamment dans le monde arabe, pas tellement en France, non, se disent au bout d'un, soit des proies faciles pour les extrémistes. D'ailleurs, extrémistes de droite, extrémistes de gauche ou extrémistes radicaux. Hein. Je prends souvent le cas du froid d'hiver, on dit ça, du froid d'hiver ou du froid hiver, berlinois 32-33. Hein. Qui est-ce qui distribue des tracts et qui a obtenu un paquet de voix, hein? Les nazis et les communistes. Hein, donc, forcément. C'est toujours les extrémistes et les populistes, hein, qui finissent par l'emporter. Donc, il faut rester ce que nous sommes. Voilà. Démocrates, mais démocrates, pas mais, démocrates, fiers de ce que nous sommes et de la République.
Je suis entièrement d'accord, mais il faut qu'on peut dire depuis, ça c'est un autre débat, mais depuis 30-40 ans, on a quand même, comment dirais-je, un peu massacré notre modèle traditionnel. On a réussi à intégrer les Portugais, les Polonais, les Italiens, les gens d'Europe de l'Est, pour vous dire, ils étaient plus proches de nous, ils venaient du continent européen, mais on les a quand même réussi à les intégrer en trois générations, on n'en parle plus. Et on a l'impression que nous, quelqu'un qui était un Italien, par exemple, donc, qui avait 20 ans en 1960, bon, qui était peut-être pour l'indépendance de l'Algérie, qui en avait des raisons d'en vouloir aux Français, mais quelque part, il était plus proche de notre modèle, quelque part. Et c'est ça qui est paradoxal et inquiétant.
Ouais,
et c'est... moi, je pense qu'on a laissé tomber ça. Si on avait... Je pense qu'au nom de la repentance, au nom de peut-être du multiculturalisme, respect des autres cultures, on est venu à nier notre modèle. Et on a à voir un peu honte. Alors, c'est peut-être pas le multiculturalisme allemand, c'est peut-être pas ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais on est aussi responsable de ça.
C'est une question. C'est une remarque. Très courageuse. Mais là-dessus, il n'y a aucun tabou à avoir là-dessus. C'est Bruckner qui a écrit en 83, Pascal Bruckner, que j'aime beaucoup, qui a écrit en 83 le sanglot de l'homme blanc. Ouais. Et il a recommencé il y a 3-4 ans avec la tyrannie de la repentance. De la pénitence, merci. Alors, donc ça, là-dessus, je suis d'accord.
Je suis d'accord qu'il faut mettre sur la table ce qui est la colonisation française, tout ce que ça a fait, mais. Quand on vient crier au feu, c'est vrai, on dit le FN, tout ça, je suis d'accord avec ce que vient de dire monsieur. Mais on a aussi, comment dirais-je, créé les conditions de...
De son émergence.
Oui, et puis même au-delà...
D'ailleurs, il récupère les valeurs, il récupère ces valeurs-là, d'ailleurs.
Il faut bien le dire aussi.
Bien sûr.
Quand dans les années 70, j'étais ado, en gros, le drapeau, c'était facho, tout était... Il y avait moi, j'entendais ça, c'était pas très politisé, mais je veux dire, on entendait des phrases, on a un peu creusé, comment dirais-je, notre tombe. Voilà.
Vous avez raison. Dans les années 20, l'idée de nation, elle est encore extrêmement puissante. Donc les étrangers qui arrivent, ils le savent, ils le sentent, on leur fait sentir, parfois de manière un peu rugueuse, et ils s'y adaptent. Je crois que c'est pas tellement... Alors, c'était européen. C'est vrai, ça joue forcément... Ça joue forcément, il y a un substrat culturel, mais... reconnaissons quand même que les Polonais qui venaient ici étaient très 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 catholiques. Les Espagnols, les Portugais et beaucoup d'Italiens étaient beaucoup, alors que la France était déjà déchristianisée. Donc il y a un substrat, vous avez raison, mais moi je ferais plus prioritairement porter la plus grande facilité qu'il y avait auparavant à la prévalence et la valorisation de l'idée d'autorité, qui est minuscule, c'est-à-dire de nation, la valeur du travail. Après De Gaulle, après la guerre, nous a fait tous croire qu'on était tous résistants, ce qui est parfaitement grotesque, mais au moins ça a été utile pour ça, et ça a permis d'intégrer, ça a été une machine à intégrer. À partir du moment, et attendez, c'est pas tout, il y avait un petit peu d'argent. C'est-à-dire que dans les années 30, c'est dur, mais quand même, là, on est pour la première fois depuis 45, il faut quand même le dire, pour la première fois depuis 45, on n'est plus sur un ralentissement de l'augmentation des richesses, ni même sur une stagnation. Depuis 4-5 ans, ça baisse. Alors là, c'est... Donc ça tend les rapports sociaux de manière extrêmement difficile. Mais, encore une fois, je ne veux pas dire que tout ça, c'est du social. Trois de mes quatre grands-parents viennent en 23 de Pologne. La France, mais quand vous avez dit tout à l'heure, on creuse notre propre... Si nous, les gens un peu de souche, regardez la souche, trois des quatre grands-parents polonais, si on ne valorise pas nous-mêmes et de manière très claire, le modèle, alors après on met ce qu'on veut comme dans le modèle, mais enfin bon, globalement, nos valeurs, que j'ai un peu rappelé tout à l'heure, la République, etc. Mais pourquoi vous voulez que le jeune beurre, pour qui l'Europe ne signifie pas grand-chose. Et entre parenthèses, on fait un petit sondage, s'il vous plaît. L'Europe, ce soir, l'Europe, merci. Donc, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais franchement, quelqu'un est prêt à mourir pour la Lituanie, pas moi. Bon, pour la France, je peux, mais pas pour la Lituanie. Alors bravo, mais vraiment, je ne suis pas ironique, je vous félicite. Oui, bien sûr. Non, mais très bien.
Bon, alors la République tchèque.
Alors, voyons voir. Je peux trouver. Bon, il y en a 28, là. Il y a le choix, quoi. Bon. Moi, je veux dire, franchement, bon, je les aime bien, mais bon. OK. Donc, ça, le petit jeune beurre. Il faut attendre Erasmus pour qu'il ait une chance d'aller dans une fac européenne. Et c'est pas sûr qu'il fasse Erasmus, c'est pas sûr qu'il y aille. Bon. Un. Deux. Puis apprentissage des langues en France. Alors, bonjour. Donc, un. Deux. C'est pas très valorisé, le terme arabe ou l'arabité ou la culture arabe, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on voit un truc à la télévision, c'est merdouille, quoi, dans le monde arabe, et on n'a pas attendu le printemps arabe. C'est des dictatures, c'est moche, c'est épouvantable. Bon, je suis arabe, mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, est-ce que je parle quelque chose ? 100, 200 mots, et je vais revoir la grand-mère au bled l'été, mais c'est pas grand-chose. Donc, il y a une quête identitaire de la part des ados ou des jeunes. Bon, alors si vous évacuez ça, la France, tout le monde s'en fout, l'Europe, ça... Bon, mais attendez, qu'est-ce qui reste? Eh bien, je vais chercher à la source, je vais chercher l'islam. Ah, j'en connais rien. Par contre, sur Internet, il y a des enfoirés qui me... Là, c'est pas le gamin qui parle, c'est moi qui parle, qui m'explique que c'est ça et ça et ça, alors qu'en fait, il dévoie, mais le gamin, il peut pas le savoir. Et si vous ajoutez à ça une époque désenchantée, on citait le grand Max Weber tout à l'heure, le désenchantement du monde contemporain, et notamment l'idée de nation, république, etc., drapeau, la Marseillaise, etc., on aboutit au fait dramatique suivant, le romantisme révolutionnaire, qui est un phénomène de, qu'on enseigne en sciences politiques depuis les 23 ans que j'enseigne, je suis toujours enseigné, le romantisme révolutionnaire, aujourd'hui, il est du côté des islamistes. C'est terrible, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était le cas du côté, il a été du côté des anarchistes, donc les noirs, enfin le terrorisme noir, et des nihilistes qui nous tuent un président. Non, pas Félix Faure, il est mort d'autre chose. je vois que l'on suit. Sadi Carnot. Donc Caserio, l'anarchiste, ouais, 1894, je crois. Il y avait une forme de romantisme chez ces gens-là qui se voyaient comme libres, totalement libres. Il y a eu un romantisme révolutionnaire pro-fasciste et pro-nazi. Brasillac, fusillé après la guerre par De Gaulle, Brasillac, il ne s'est jamais engagé sur un front, il faut qu'il ait peur de son ombre. Il faisait poème, il disait Brasillac, il disait le fascisme est une poésie. Il y a eu un romantisme révolutionnaire fasciste, avec ces espèces de. Ces grandes. D'abord ces grands mets, ces drapeaux partout. Des sigles, des symboles extrêmement faciles à retenir, les retraites en flambeaux, les uniformes. Je ne vais pas vous raconter les SA et les SS, mais regardez le romantisme révolutionnaire de Daesh aujourd'hui. Cette scénographie, ils sont en uniforme, ils marchent doucement, ils sont plutôt, enfin, ils sont plutôt beaux gosses, enfin, cheveux au vent, et ils vont comme ça, l'air placide, perpétrer des actes d'horreur absolue. Bon, ils transcendent les conventions. Le jeune ici, musulman ou pas d'ailleurs. Moi, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps au chef des renseignements généraux, puis là, il en transpire encore. Parce que, autant, si je lui avais dit, bah, tu sais, c'est simple, celui qui porte ce prénom-là, ou qui est habillé comme ça, et comme ça, et comme ça, lui, il est dangereux, pas les autres. Bon, à la limite, il peut commencer au romantisme révolutionnaire. Ouais. Faut aller chercher dans les écoles, dans les foyers, dans les gens, chez 25 millions d'ados en France. Bah, c'est pas possible. Donc, et malheureusement, ça, si nous, on réenchante pas la France, ou l'Europe, enfin, ce que vous voulez, ou l'Occident, d'une manière ou d'une autre, ou la chrétienté, ce que vous voulez, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'est ceux qui, pour l'instant, ça ne durera pas, ça passe ces périodes-là, mais on va s'en manger, je peux dire, pendant les 20, 30, 30 prochaines années. Hein. Si le romantisme révolutionnaire reste de leur côté, on va s'en manger. Donc globalement, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ajoute un point, c'est que il y a très, très peu de problèmes d'intégration chez les Kabyles. Pour une raison liée au fonctionnement de la société kabyle, qui est vachement intéressant. Ils n'étaient pas des Européens, ils ont subi la guerre d'Algérie, ils étaient d'ailleurs souvent combattants contre les Français, on est bien d'accord. Hein. Et ils parlent arabe, et ils parlent pas que arabe, mais eux, et ils sont plus ou moins musulmans. La société kabyle fonctionne avec des femmes sur le piédestal des hommes, d'une part. D'autre part, c'est une société, entre guillemets, anarchiste, au sens où l'autorité du chef n'est autorité qu'à la condition de la responsabilité et de l'efficacité. Le chef, il est mauvais, on le dégage. Mais ça va très très vite. D'ailleurs, en général, les gens ne veulent pas être chef. On a peine à trouver des chefs. Elle est belle, la Kabylie. Vous voyez ? Et ça, c'est... J'oublie un truc, la valorisation du savoir. La valorisation... Bon, mais pourtant, c'est le continent africain. À l'inverse, prenez le cas de l'Indochine, il n'y a pas, quasiment pas de problème d'intégration avec les populations originaires d'Indochine. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que... Les continents, les civilisations, je me méfie un petit peu. C'est davantage les valeurs, vous voyez, qui sont véhiculées. Voilà. Mais sur le reste, je suis d'accord avec vous. Oui ?
Je voudrais vous demander, Bernard Henri Lévy, est-ce que je n'ai pas jeté de l'huile sur le feu, là, en soutenant les mouvements de révolte ?
La Libye ? Oui. Moi, à l'époque, j'étais... Je fais d'une grande honnêteté intellectuelle avec vous. J'étais favorable. Pardon, oui. Monsieur demande si Bernard-Henri Lévy n'a pas jeté du lit sur le feu en soutenant la révolte en Libye. Bon. Et en faisant soutenir au président Sarkozy. Bon. Parce que, attendez, à la fin des fins, le président, c'est lui qui décide quand même. Hein. Quand on me dit, ouais, mais BHL avait réussi, il réussit rien du tout. Si Sarkozy veut bien l'écouter ou veut bien dire qu'il l'a écouté, ça fait sens. Mais là, c'est une prise de position politique. Un intellectuel, surtout en France, il a vocation à parler, à dire, à conseiller, un peu bien, un peu pas bien, Sartre, Aron, voilà, donc, bon, BHL aussi. Mais enfin, c'est surtout, c'est Sarkozy a pris la décision. Et manifestement... Bon, allez, on parlait d'autre chose. Donc, pas forcément que pour des questions liées aux droits de l'homme. Donc, BHL, la Libye. À l'époque, je fréquente un peu les cercles qui sont très droits de l'hommistes et qui prônent l'éviction de Kadhafi. Et deux choses. La première, c'est que Benghazi était à quelques heures de subir les foudres de l'armée et des milices de Kadhafi. Alors le mec, il a un CV quand même, hein. C'est quand même pas un grand humaniste. Bien. Il avait annoncé des rivières de sang, qu'il allait tout détruire, etc. Et ses chars étaient à quelques heures, authentiquement, de Benghazi, la deuxième ville, une ville révoltée. C'est là aussi la question est philosophique. si on n'avait pas soutenu les rebelles, parce qu'il y a quand même des rebelles, on n'a pas inventé la rébellion, et que Benghazi avait été réduite en cendres. Aujourd'hui, est-ce que votre question ne serait pas, mais est-ce qu'on n'aurait pas bien mieux fait, est-ce que M. BHL n'aurait pas dû être écouté lorsqu'il disait qu'il fallait sauver Benghazi? Votre question, peut-être, ce serait ça aujourd'hui. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Ben oui. Et pourquoi? Puisqu'on est intervenu, on a empêché que ça se fasse. On est allé un peu loin. La résolution 1373, elle ne dit pas qu'il faut tuer Kadhafi, quoi. On ne l'a pas fait. Enfin, on l'a un peu aidé. Bon. Donc, là, de ce point de vue-là, ça a mené... Je pense, en fait, qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de ceux qui pouvaient prendre le pouvoir après Kadhafi. C'est très bien d'aller dégager Kadhafi ou Saddam Hussein, à condition de mettre quelqu'un de mieux à la place. Ce qui n'est pas très compliqué. Là, on n'a pas bien joué. De ce point de vue-là, je vous rejoins. Et je suis donc plus balancé par rapport à ma position d'il y a 4 ans, même s'il fallait sauver Benghazi. Ça, là-dessus, je maintiens. Après, moi, j'ai participé à pas mal de réunions dans un grand hôtel parisien, et il y avait pas mal de gens, des journalistes, des militants des droits de l'homme, beaucoup sont des copains, et plutôt atlantistes, etc. Et les deux chefs de la rébellion, j'essayais vraiment de les voir en Churchill et De Gaulle, j'y arrivais vraiment pas, quoi. C'était des branquignoles qui nous faisaient plaisir. Ils étaient en France, ils nous disaient, vous savez, si vous nous aidez, on va libérer la Libye. Et à ce moment-là, on va surtout créer des musées et toutes les vestiges romains seront protégés. Vous pourrez venir les visiter et les femmes seront libres. Le mec, il est en France. Hein, donc les vestiges romains, ça intéresse l'archéologie et les femmes libres. Ouais, okay. Mais les mecs, on les retrouve en Angleterre, ils ne disaient pas ça du tout. Hein, ils disaient, anglais, je sais pas, ils s'en foutent. Et là, vous pourrez commercer, le commerce sera totalement libre et je vous jure que c'est vrai. Les mêmes, quoi. Les branquignoles, quoi. Donc, et puis, manifestement, on s'est laissé, oui, dépasser par des gens qui n'étaient pas à la hauteur. Mais la question demeure. Fallait-il sauver ou pas Benghazi? Je fais souvent des débats. Ronnie Broman, il dit ouais, c'est facile. Si ça se trouve, Benghazi n'aurait pas été détruite. Ah, ben, si ça se trouve, ben oui, mais on ne fait pas l'histoire. Ouais. Marrant. Moi, je pense que si, parce que Kadhafi, comprenez, c'est pas Mère Teresa. Donc, moi, je pense que. Et puis, il y allait, là. Hein. Il rigolait pas, hein, comme Assad. Hein. Donc, moi, je pense, je maintiens qu'il fallait y aller. Après, le rôle d'un intellectuel, BHL ou d'autres. Hein. Juste, d'un mot. Hein. C'est un personnage qui est très stigmatisé. C'est un personnage qui est très détesté, même par beaucoup de gens, que je connais un peu. Lorsque l'ego est surdimensionné, ça exaspère. Et moi, les gens qui ont un ego surdimensionné, ça peut être Dieu le Père, hein, en personne, moi, ça m'exaspère. On est tous mortels, on n'est rien du tout, ou presque rien. Alors, il faut essayer d'être presque, parce que pour le reste, c'est vraiment pas grand-chose. Bon. Et BHL, il est ni plus ni moins. Or, voilà. De ce point de vue-là, c'est pénible. Je comprends que... Mais lorsqu'on me parle de BHL... Je réponds toujours par une question. Qui peut me dire avoir sincèrement lu un de ses... Je sais pas, il a écrit 17 ou 18 bouquins. Alors ici, je sais pas. Mais quand je fais des conférences, ce qui m'arrive très très souvent, je vois une cinquantaine, une centaine, parfois 200 perdus qui se baissent. Nul n'est censé avoir lu BHL. Mais simplement, malheureusement, souvent, on en reste à une posture qui est extrêmement pénible. Hein. Vraiment, je le connais, c'est pénible, quoi. Mais sur le fond, il écrit des choses intéressantes. Et notamment, il avait écrit un bouquin dans les années 2000, qui a été, à mon sens, c'est le seul, où il pointait du doigt une politique de type génocidaire qui était en train d'être commise par le président soudanais, qui est en ce moment en Afrique du Sud, là, qui j'espère va être extradé à la Cour pénale internationale, et qui a commis, pardon ? J'ai pas écouté les infos tout à l'heure. Voilà, merci l'Afrique du Sud, ça m'étonne d'ailleurs pas du tout. C'est un scandale. Les Nouba aujourd'hui n'existent plus, c'est une population qui a été entièrement exterminée. Qui en a parlé, BHL? Bah, moi j'aime bien qu'on parle des gens qui ont été exterminés, parce que moi je ne suis pas féru, je suis un homme de peu de foi, et je ne suis pas très féru de Bible, mais je pense être le gardien de mon frère. En tout cas, à minima. Bah, le Nouba, moi, j'aurais jamais vu, hein, le bonhomme, hein, le Nouba, on n'aurait pas parlé la même langue, je ne connais pas, ça se trouve, il était con, mais moi, je ne veux pas qu'on extermine les Nouba. Ils ont été exterminés par le bonhomme qui est donc rentré chez lui, merci l'Afrique du Sud. BHL en a parlé. Il a consacré du temps, il a consacré de l'énergie, ça l'a embêté, ça l'a énervé, ça a peut-être fait pleurer, j'en sais rien. Il a consacré un chapitre de livre, et un chapitre de livre, je peux vous dire que ça prend des semaines ou des mois. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai tendance, disons, à pondérer les critiques sur BHL.
C'est bien.
Merci maître.
Un travail pastoral.
Merci maître. On n'attendait pas moins de toi. Oui.
Mais est-ce que les réels moyens, quand on pense à un pays d'un État X, par exemple la Libye, je pense aussi à l'Afghanistan, de détecter des successeurs fiables? Ça doit être.
Que font les services d'espionnage?
Ouais, c'est vachement difficile. Tout à l'heure, j'étais peut-être un peu sévère, parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Vous avez soit des gens qui sont en exil, donc en général, bah, chez nous, quoi. Donc on connaît, bah, parce qu'on les connaît, ils sont chez nous, quoi. Ils font des bouquins, ils parlent, ils font des confs, ils vont voir les bons... ils mangent dans les bons restaurants, donc ils sont civilisés, ils mangent pas avec leurs doigts. Bon, très bien. Alors, on les aime bien. Le problème, c'est qu'en général, ces gens-là, pour toutes ces raisons, ils sont détestés chez eux. Eh ben oui, c'est le bonhomme qui revient dans les fourgons d'étrangers. Hein, Giscard avait fait ça en virant Bokassa, où il commençait à manger vraiment trop d'enfants. Bon, alors bon, au bout d'un moment, le quart du budget passait dans son sacre napoléonien, et puis il mangeait des enfants. Bon, alors du coup, on arrive, opération Barracuda, en 77, je crois, on dégage Bokassa, sergent d'armée française quand même, on le dégage, et il allait finir sa vie en banlieue parisienne avec sa pension. Et on met à la place, dans l'avion, le nouveau dictateur. Ça devient un peu compliqué. Soit c'est ça, soit c'est des gens qui émergent du cru. Et là, est-ce qu'ils sont représentatifs? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont intelligents? C'est très difficile. Vous avez raison de poser cette question. C'est très difficile à savoir. Et le plus souvent, l'histoire démontre que le plus souvent, les grands hommes se forgent dans l'adversité. Dans l'adversité. Hein, c'est Coluche qui disait... c'est un peu cruel, hein, bon, je le dis, mais Coluche disait, au fond, de Gaulle... De Gaulle lui doit tout. Alors que d'ailleurs c'est méchant parce que De Gaulle avait écrit des bouquins fondamentaux qu'avaient lu les Allemands et pas nous bien sûr comme d'habitude en termes militaires. C'est un grand stratège De Gaulle. Mais voilà, en 39 il se passe Hitler meurt dans un attentat qui était programmé en Munich. Tout se passe différemment. De Gaulle, bon, ben, voilà, il aura écrit deux bouquins dans sa vie ou trois. Vous voyez, donc c'est très difficile. Vous avez raison, c'est très difficile. Très difficile. Mais eux, c'était vraiment des branquignoles.
D'autres questions? Une dernière, peut-être? Oui?
Je voulais vous demander, en Turquie, est-ce qu'Erdogan ne dirige pas aussi?
Est-ce que
Erdogan, le président?
Oui?
Est-ce qu'il ne dirige pas lui aussi?
D'accord, donc une question. Et Serge?
Oui, en fait, on parle de la puissance unique. Comment fonctionne l'Indonésie par rapport à l'islam et par rapport à ce qui se passe?
D'accord, deux questions. Et est-ce que tu pourrais, j'en rajoute une, tu m'excuseras.
Je t'en prie.
Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots du wahhabisme?
Oui, très bien.
Hein, de son influence, très courtement. Il me semble que c'est le Qatar qui a acheté le PSG, non?
Je souris parce que c'est tellement pitoyable. C'est tellement consternant. C'est-à-dire qu'il y a quelques millionnaires qui poussent une baballe au fond d'un filet. Mais suffit, mais je... C'est, bon, enfin bref, allez, je ne vais pas parler de ça, ça m'énerve. Tant que... Bon. Et puis il y a peut-être des amateurs de foot. Non, je plaisante, je sais qu'il n'y en a pas. Je ne vais quand même pas vous insulter. Je ne vais pas vous insulter gratuitement. Puis si l'AS Cholet existait, ça se saurait.
Le SCO d'Angers.
N'importe quoi. Bon, En tout cas, tu sais, du pain et des jeux. Voilà. Ouais, voilà ce qu'on nous refile. Voilà, Panem et Tsarkhan, c'est du pain et des jeux. Voilà ce qu'on nous refile. D'accord. Alors, l'Indonésie sunnite, hein, exclusivement sunnite, c'est le pays musulman le plus peuplé du monde. Hein. Le plus grand. Hein. Tunisie, le Maghreb, tout ça, c'est très, très, très peu peuplé, en fait. Hein. Les Arabes que nous, les musulmans que nous connaissons sont essentiellement des Arabes, et c'est des pays très peu peuplés par rapport à notamment l'Indonésie, qui suit une voie relativement originale. C'est-à-dire que le wahhabisme n'a jamais réussi, je vais te répondre, à pénétrer réellement l'Indonésie. Il y a très, très peu de frères ou de partisans des frères musulmans. Et en même temps, on ne peut pas considérer que c'est une république, laïque. Je dirais que le traditionalisme, il est davantage clanique, tribal, familial que religieux. Hein. C'est un peu comme... c'est un petit peu comme l'arc d'exercice de cette pratique barbare qu'est l'excision. Eh ben, il traverse un pays chrétien qu'est l'Éthiopie. Ils ne touchent pas l'Arabie Saoudite, alors que les Saoudiens sont vraiment, je vais te répondre, les derniers des fanatiques musulmans. Donc c'est autre chose, c'est des pratiques qui sont ancestrales, tribales, et voilà, locales qui se diffusent, mais pas nécessairement sur une base religieuse. Donc l'Indonésie, de ce point de vue-là, vit un islam qui, je dirais, globalement, est plus ouvert que celui qui prévaut de plus en plus, malheureusement, aujourd'hui, dans d'autres sociétés, notamment en Asie centrale, au Pakistan, où c'est vraiment une catastrophe. Voilà, mais cela dit, ça n'en fait pas un grand émergent, hein, contrairement à ce que fantasment beaucoup de gens. Le wahhabisme, Ibn Abd al-Wahhab, 18e siècle, C'est le goupillon qui s'allie avec le sabre. Le sabre, à l'époque, c'est un chef bédouin qui s'appelle Ibn Seoud, Arabie saoudite. Voilà. Donc l'alliance du sabre et du goupillon au 18e, dans le désert du Nefout, qui n'a pas été conquis par les Turcs. Hein. Les Turcs ottomans ont conquis l'intégralité du monde arabe, sauf le Maroc. Maroc qui en tire une fierté, et juste titre d'ailleurs, extraordinaire, et qui renforce, de ce simple fait renforce la dynastie chérifienne. C'est intéressant. Jamais été colonisé le Maroc. Et Lyotès, il n'est pas considéré comme étant un colonisé. Bref. Et le Nefoud, le désert du cœur du Nefoud, où les Turcs rentraient pas trop. Bref. Et Abdel Wahhab, il a créé une espèce d'une secte, appelons-la comme ça, hein. C'est une secte, hein. C'est pas parce qu'ils ont du pétrole, c'est pas une secte, qu'ils nous achètent des avions, c'est pas une secte, hein. Bon. Extraordinairement rigoriste, qui a poussé très très loin la monolâtrie, qui était déjà en vogue dans une partie de l'islam. Et alors Abdel Wahhab, qui fera naître le wahhabisme, les wahhabites prenant, et les séoudes prenant le pouvoir en 1930 en Arabie, contre les hachémites, qui étaient beaucoup plus modérés que son pouvoir en Jordanie. Ils sont vachement modérés, les hachémites, malheureusement, à quelques canons près, quelques chameaux, je ne sais rien, ou quelques espions, quelques Laurence d'Arabie près, bah, c'est les wahhabites qui ont pris le pouvoir à la Mecque et Médine sur les lieux saints en chassant les hachémites. Le visage géopolitique du monde, j'exagère pas, hein, du monde entier, aurait été changé par cette petite escarmouche dans le désert, hein, dans les années 20 et 30, hein, c'est comme ça. En tout cas, ils ont pris le pouvoir sur un tas de pétrole, dont ils ne savent que faire, parce qu'ils ne font pas d'ingénieurs, ça se saurait. Donc les wahhabites, c'est vraiment le désert absolu, c'est le rigorisme total, c'est le fanatisme. Mais Abdel Wahhab Medeb, au 18e, il ne vient pas de rien. Lui-même, c'est le disciple de Ibn Taymiyyah. Alors je vous fais court, mais Ibn Taymiyyah, c'est 13e et 14e siècle, en Irak, et lui vit la catastrophe, c'est-à-dire la fin d'un horizon catastrophique, les deux mâchoires des croisades, mais surtout des Mongols. Les Mongols, en 1258, ils ont anéanti Bagdad. Bon. Donc, et puis, non seulement ils ont anéanti Bagdad, mais après, ils ont conquis toute la région, où il se trouve qu'après, ils sont convertis à l'islam pour la plupart, mais enfin, au début, ils étaient pas rigolos. Et là, il a fallu serrer les boulons, et Ibn Taymiyyah, aujourd'hui, c'est le livre de chevet de tous les islamistes au monde. Il a écrit La Juste Voie, c'est un truc épouvantable, c'est fanatique. C'est lui qui inverse, par exemple, la priorité du petit djihad et du grand djihad. Le djihad, c'est les efforts sur soi. Le grand djihad, pour tous les musulmans érudits, hein, qui se respectent, c'est d'abord les efforts contre l'égoïsme, contre la concupiscence, contre le stupre, etc. Très bien. Et le petit djihad, très réglementé, enfin je dis bien en principe, hein, qui doit se mener que dans un cadre très particulier, en riposte à une attaque, sans toucher aux civils, bref. Bon. Tout ça, c'est des principes. Hein. Ce Taymiyyah, 13e, 14e, il inverse la priorité. Et lui-même, et j'en finis, était le disciple de Ibn Hanbal. Et H-A-N-B-A-L en phonétique, quoi, Ibn Hanbal, c'est le chef de l'une des quatre écoles de jurisconsulte qu'a connu l'islam dès le 9e siècle. Il fallait bien interpréter le Coran, il y a des versets qui ne sont pas très clairs, bon, des exégètes, quoi, si vous voulez. Il y a des trois, quatre écoles d'exégèse. Bon. Eh bien, Ibn Hanbal a été le chef au 9e siècle, c'est un contemporain de Charlemagne, le mec. Hein. Il a écrit des trucs, une exégèse qui est, parmi les quatre, la plus dure, la plus radicale, la plus minoritaire, mais qui va donner toute cette généalogie de l'islamisme radical dont je viens de vous parler jusqu'à aujourd'hui. Et Hanbal, aujourd'hui les salafistes, donc les gens qui veulent revenir aux salaf, donc aux ancêtres, aux compagnons du prophète, sont des Hanbalites. Ces mecs, ils suivent Hanbal. Donc, juste, excusez-moi, le conflit israélo-palestinien, ça n'existait pas à l'époque, je vous remercie. Voilà. Donc la colonisation israélienne, non, il y a le 9e siècle, Charlemagne, il n'y a pas. Hein. Les États-Unis, non, il n'y a pas. Bush n'est pas au pouvoir. Hein. Bon, et toutes ces années, vous voyez. Donc on a une généalogie dans laquelle s'inscrit le wahhabisme, hein, c'est le palier rigoriste ou fanatique le plus moderne, le plus proche de chez nous, si on excepte les frères musulmans 28 en Égypte, il est au pouvoir dans deux pays, le Qatar et l'Arabie saoudite. La seule différence, c'est qu'au Qatar, ils mettent un costume cravate quand il le faut, en Arabie saoudite, ils le font pas. Mais c'est tout, quoi. Et ce sont des régimes absolument fanatiques, il faut bien voir ce qu'on leur enseigne dans leurs écoles, et tous condamnés à mort. Enfin,
il faudrait l'enseigner au collège. Alors, il y avait une question
Et enfin, la question de monsieur sur Erdogan. Erdogan, le président turc. La Turquie ne joue même plus un double jeu. La Turquie joue un jeu simple et transparent, celui de la politique du pire. Aujourd'hui, si l'État islamique peut se refaire, peut vendre ses huiles lourdes. Ils ne vendent pas tellement d'essence parce que leurs raffineries ont été frappées par les bombardiers américains, bon, peut-être français, mais bon, enfin, ils vendent comme des huiles lourdes. Ça passe par... Ils n'ont pas d'accès à la mer, donc pas de bateau. Donc ça passe par des camions, hein, forcément. Les pipes, ils ont été cassés. Bon. Donc ça passe par des camions. Et il y a une seule frontière ouverte, c'est la Turquie. Voilà. Les migrants à l'est de l'Europe, la Turquie. Le soutien aux autres groupes, pas forcément Daesh, mais aux autres groupes islamistes, la Turquie allègrement. Attendez, l'AKP au pouvoir depuis 2002, c'est quoi le costume cravate fait pas son démocrate. Hein, donc Erdogan, qui en plus de ça est quelqu'un qui est très franchement bas de plafond, quoi. Davutoglu est plus intelligent, mais Erdogan, mais c'est... bon. Et non seulement il connaît une dérive personnelle ubuesque avec son fameux château 1000 pièces, machin, il se prend pour Soliman le Magnifique, et il a voulu rebâtir une politique néo-ottomane qui, bon, a totalement échoué, mais qui prétendait remettre le boisseau sur le monde arabe, conquis à l'époque, pour ceux à quel point les Arabes étaient contents de voir revenir les Turcs, et sur la région, enfin, ce qu'on appelait le pantouranisme, c'est-à-dire toute cette région du Caucase et d'Asie centrale jusqu'au Xinjiang, donc jusqu'au Turkestan oriental, les Ouïghours en Chine, quoi, qui parlent des langues qui s'apparentent aux Turcs. Voilà. Comme le roumain, le français, moi je comprends pas le roumain, donc bon, voilà. Et jouer sur cette espèce de vieux fantasme, cette vieille représentation, bon, tout ça a échoué, le divorce avec Israël, ça a échoué, vraiment dans des grandes lignes, et puis aujourd'hui vous avez une crispation identitaire qui est extrêmement forte, et qui s'accompagne d'une diminution de la croissance, et donc là les gens, faut pas leur raconter, hein. Vous leur donnez de l'identité, il y a de l'argent, ils prennent l'identité, mais au bout d'un moment, il a réussi à faire que, ce qui est déjà énorme, 40%, mais enfin par rapport à 13 ans d'arriver au pouvoir à chaque fois au premier tour de scrutin, évidemment, ça énerve, et surtout les Kurdes. Si vous voulez, le 21e siècle sera kurde. Je sais pas ce qu'il sera d'autre, hein, il sera plein de choses, mais il sera kurde, ça je peux vous garantir, il sera kurde. Et c'est longtemps, hein, je me trompe sur d'autres choses, pas là-dessus. Hein. Et il y a une montée en puissance de la conscience nationale panétatique, donc sur plusieurs États, les Kurdes sont dispersés. Mais notamment en Turquie, la majorité des Kurdes vivent en Anatolie, donc en Turquie orientale. Je ne mise pas un copec sur le maintien de la puissance, voire même de l'unicité territoriale turque dans les prochaines décennies. Pas un copec là-dessus. Ça c'est quelque chose qu'ils le sentent, ils le savent extrêmement bien, et c'est tant mieux pour les Kurdes. La boucle sera peut-être bouclée. La Turquie ne doit pas pouvoir ouvrir d'autres dossiers d'adhésion, c'est foutu maintenant, d'adhésion à l'Union européenne sans avoir reconnu le génocide arménien. Ça, ce n'est pas moralement, ce n'est pas possible de la part des Européens d'accepter une telle offense.
Alors je retiens cette phrase à la Malraux, le 21e siècle sera kurde, ou ne sera pas.
Ouais, il sera de toute façon, il sera aussi kurde.
Je vous précise que vous retrouverez le programme des conférences organisées par la librairie à la sortie. Hein. Le cycle de conférences est organisé à l'Est, le protestantisme en voyage. Ici, ce sont d'autres conférences, mais tout est indiqué sur ce petit fascicule, les orateurs, le résumé de la conférence. Vous retrouverez évidemment la présentation de celle de Frédéric Ancel, à laquelle vous avez assisté ce soir. Je vous précise aussi qu'il ne fait pas encore nuit, donc que vous avez encore du temps pour découvrir les livres de Frédéric Ancel. Vous savez bientôt, comme moi, que c'est l'été, que vous allez partir à la montagne, à la mer, et qu'on ne part pas en vacances sur l'objet essentiel qu'est le livre. Alors, géopolitique du printemps arabe, qui fait le tour, justement, de cette question abordée quelque peu ce soir, mais que vous pourrez approfondir avec ce livre. C'est donné, hein, c'est quoi, 16 euros ?
C'est donné à toi.
18 euros, donc voilà, c'est donné. Donc, géopolitique du printemps arabe. Non, sérieusement, je vous invite vraiment, c'est très simple. Frédéric Ancel, ici, se livre un vrai exercice de géopolitique, c'est-à-dire pas seulement de la géographie ou de la politique. Hein. Il plonge les racines de ce soubresaut monumental qu'a été le printemps arabe, jusque dans les questions culturelles, les questions des rapports sociaux, il l'a un peu dit ce soir, les questions économiques aussi, évidemment. Mais il se livre donc à une explication totale de ce mouvement qui nous a touchés à partir de 2010
géopolitique des printemps arabes. Il est l'auteur de nombreux autres ouvrages. Je vous présente notamment celui-ci, Géopolitique d'Israël, pour lequel j'ai un faible, qui est un ouvrage absolument remarquable, je n'exagère pas, vraiment remarquable, avec François Toile. Il fait ici une présentation de la question d'Israël, une présentation, je dirais, objective, une présentation, dégagée de tout cette passionnariat qu'il y a autour d'Israël et des conflits israélo-arabes ou israélo-palestiniens. Et par des entrées extrêmement simples, la question de l'eau, en quoi l'eau a joué un rôle ou joue un rôle fondamental dans la géopolitique d'Israël, Jérusalem, évidemment la guerre de Kippour, 67 et ainsi de suite. Donc vous avez des entrées qui sont à la fois des entrées politiques, des entrées militaires, des entrées géographiques, des entrées économiques, et on retrouve ce travail de Frédéric Ancel où la géopolitique n'est pas simplement une question de rapports économiques, sociaux, mais ce sont des rapports de civilisation au sens où ça touche l'ensemble d'une société, et donc ce sont des analyses qui sont totales et qui nous entraînent à une relation, je dirais, un peu complexifiée, mais qui est nécessaire justement pour sortir un peu de cette passionnariat, cette passion autour de ces questions géopolitiques. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite à tous un bon retour, merci de votre présence, et je vous propose de remercier encore notre orateur. Qui signera bien sûr ses ouvrages.
Je peux vous dire que sur la plage, pour emballer avec ça, c'est compliqué.